que oui, 10h, 1 minute, ça part. Bienvenue dans le Point de Max, 2 heures à passer ensemble à Boulevard 102.1. Il y a aussi le BLVD.fm pour nous écouter en direct. L'application mobile, Boulevard 102.1. La nouvelle version, mise à jour, c'est pas fait encore. Là, si ça fait un petit bout que vous l'avez, l'application Boulevard, puis que vous n'avez pas fait votre mise à jour, je vous le dis que ça vaut amplement la peine. C'est plus beau. Ça, c'était facile à utiliser, l'ancienne application. On l'aimait, puis tout. Là. Mais les couleurs avaient fait leur temps un peu. Puis là, c'est plus beau, puis ça reste aussi facile à utiliser, même plus. Il y a la page Facebook de Boulevard 101 que je vous invite à suivre aussi si vous voulez notamment voir Denis Gravel qui m'a asphyxié ce matin avec un produit nettoyant. C'est qu'on recevait Hugo Langlois qui se présente au municipal pour Leadership Québec, le parti de sa mamade. Puis hier, lors de la présentation des nouveaux candidats de Leadership Québec dont il faisait partie, et on fait ça dans un parc dans le coin de Vanier, puis ils se sont comme placés où il y avait des jets d'eau. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait des jets d'eau qui pouvaient partir. Puis quand le point de presse était commencé depuis une couple de minutes, ben les jets d'eau sont partis. Fait que là, Denis Gravel, qui arrivait immédiatement après Hugo Langlois dans nos studios pour le pit stop du lundi au jeudi 7h45, ben Denis, c'est un comique, vous le connaissez. Il voulait que Hugo Langlois se sente à la maison. Fait qu'il est arrivé avec un petit push-push nettoyant, mais qui était vide, qui disait, puis il l'avait rempli d'eau, fait qu'il voulait arroser Hugo Langlois. Puis là, l'affaire, c'est que pendant que Denis se faisait un café, Hugo Langlois est parti. Fait que là, Denis, ben fier, est arrivé avec son petit push-push d'eau. Puis il était bien déçu de ne pas pouvoir l'utiliser. Fait que la victime, ben ça a été Max Larouche. C'est moi, ça. Puis l'affaire que tu penses pas des fois quand tu veux faire une petite joke puis tu trouves ça bien drôle, puis c'est que oui, le produit nettoyant a l'air vide. Puis quand tu mets de l'eau dedans, ben tu te dis c'est de l'eau qui va sortir. Là, ce qui est arrivé, c'est qu'en effet, il y avait de l'eau, mais vraisemblablement, il y avait aussi un fond de nettoyant dans le push-push à nettoyant. Puis en me l'envoyant dessus, ben je l'ai senti à l'odeur. Puis je l'ai goûté aussi. Bref, c'est sur vidéo, sur le Facebook de Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit, par texto 88-971-1021 pour réagir aux entrevues que j'aurai à vous offrir aujourd'hui, pour réagir aux nouvelles que je vais vous livrer dans les prochaines minutes. Pour quoi que ce soit, c'est pas compliqué, je suis tout seul en studio la majorité du temps, fait que je vais vous répondre, je vous ghosterai pas. 88-971-1021 par texto, qui est là pour la troisième du Point de Max, déjà, Colin, que ça passe vite. Et à la météo, présentement, c'est un 23 ressenti à Québec, ça va être une belle journée, puis j'allais dire d'en profiter parce que c'est la dernière avant un bout, puis c'est plus vrai. Hier, on prévoyait que jeudi, aujourd'hui, ça allait être la dernière belle journée pour au moins la fin de semaine. Là, je regarde ça. Puis oui, aujourd'hui, bon, c'est un 26 degrés. Plus que ça, avec l'humidex, on va ressentir autour de 30. Ce soir et cette nuit, 14 avec des averses. Demain, 21, mais c'est assez dégagé. Fait qu'on va avoir du soleil aussi. Il y a, tu sais, c'est ça, de la nuit de vendredi à samedi jusqu'à à peu près la nuit de samedi à dimanche, là, c'est plus de la pluie. Mais à part ça, dimanche, une autre belle journée. Puis la semaine après ça, ça a l'air d'être pas pire aussi. Fait que, bonne nouvelle, ça s'est amélioré pour ce qui est de la météo. Est-ce que ça s'est amélioré sur les routes? Parce que ça a été assez difficile ce matin. Je regarde ça avec vous à l'instant. L'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, c'est encore bien jamé. Ça refoule encore jusqu'à rue Beaulieu, sur la 73 Nord, pour l'accès au pont Pierre-Laporte. Fait qu'on s'arme de prudence. Même Capitale-Ouest, je vois qu'en ce moment, là, hauteur Laurentienne, il y a quand même un ralentissement d'importance. Robert-Bourassa Sud vers le boulevard Le Bourgneuf, même chose. On est vraiment revenu dans la circulation habituelle avec le retour à l'école et tout ça. Et d'ailleurs, parlant de retour à l'école, aux alentours de 8h35, on va discuter avec André Bernier. Il est directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. On va jaser cette rentrée 2025, des complexités avec là, Bernard Drainville qui coupe dans les écoles. Puis là, finalement, ben, on coupe plus dans les écoles, mais ce qu'on vous redonne, on met des conditions. Pour les directeurs d'école, ça doit être tout un casse-tête et on va en jaser avec M. Bernier. Sinon, dans quoi? Moins d'une dizaine de minutes, on va jaser avec Pascal Dufresne. Il est coach en chef de l'équipe de hockey féminin à l'Université Laval. Équipe qui n'existe pas encore. Les débuts vont se faire à l'automne 2026, mais il a été nommé. Pascal Dufresne, c'est pas compliqué, là. À Québec, tu veux parler de hockey féminin, cherche pas trop. C'est Pascal Dufresne que t'appelles. Il a coaché au-dessus de 20 ans l'équipe de hockey féminin du côté du Cégep Limoilou. Puis pourquoi parler de hockey féminin aujourd'hui? Ben, c'est parce qu'il y a deux belles nouvelles qui, dans les prochaines minutes, vont être annoncées dans le monde du sport. Le championnat mondial de hockey junior 2029 et le mondial féminin senior 2027 vont se tenir ici, à Québec, au Centre Vidéotron. C'est le Journal de Québec qui a obtenu la primeur hier. Il y aura conférence de presse aujourd'hui pour confirmer tout ça. Pour ce qui est du mondial junior, c'est Trois-Rivières qui a été retenu comme deuxième site du tournoi. Fait que les passionnés là, qui vont vouloir se taper un maximum de matchs, il va avoir moyen de se gâter en tabarouette dans le temps des fêtes 2029 avec le mondial junior. Mais évidemment, le mondial junior retient beaucoup d'attention. Puis je dis pas ça pour blâmer personne. Je veux dire, moi, je vois ça, la nouvelle. C'est pas le mondial féminin qui m'excite le poil de jambe. Là. Moi, c'est le mondial junior qui, chaque année, c'est un de mes moments préférés. Je m'installe devant la TV, je regarde quasiment tous les matchs. Lettonie-Suisse, je regarde ça pour je ne sais quelle raison. Mais c'est en 2029. On a encore le temps d'en regarder d'autres avant, puis Le mondial féminin senior, ça, c'est en 2027. C'est dans 2 ans. Puis, le hockey féminin, veut pas, connaît une tabarouette de belles montées au Québec dans les dernières années. L'arrivée de la Ligue professionnelle de hockey féminin, bien, évidemment que ça a eu un rôle à jouer qui est positif pour ces jeunes femmes-là d'avoir, oui, des modèles, il y en avait déjà à l'international, tout ça, mais d'avoir cette ligue-là qui est plus sérieuse, bien, de dire, OK, moi, mettons que je suis au cégep, je joue au hockey, puis après ça, à l'université, je vais jouer au hockey, puis après ça, de dire, hey, moi, je peux jouer pour la victoire de Montréal dans une ligue qui est sérieuse, dans une ligue qui remplit des arénas, tu sais, notamment à Montréal, je sais que c'est pas comme ça partout. Puis ça va être une de mes questions pour Pascal Dufresne aussi. Est-ce que à Québec, on serait prêt à avoir une équipe de la LHPF? Est-ce que c'est dangereux pour une ligue comme ça de prendre le succès qui actuellement est pas pire pantoute, mais de se dire, hey, on pousse ça plus loin, on ajoute des équipes, puis là, de diluer le produit, que la qualité baisse. Bref, j'ai bien des questions pour vrai pour Pascal Dufresne. Si vous en avez aussi, n'hésitez pas au 418-971-1021. Fait que ça, c'est sûr que dans le monde du sport, ça va retenir beaucoup d'attention à Québec, mais il y a quand même une couple d'affaires dans le sport. Vous dire que c'est le retour enfin de la NFL ce soir, 20h20, les Cowboys de Dallas qui affrontent les Eagles de Philadelphie. On s'entend que ce soir, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont mettre beaucoup d'argent sur les Cowboys, mais je pense que c'est une équipe qui a encore beaucoup de talent et qui peut encore surprendre. Les Capitales de Québec, de leur côté, départ en force. On a pris les devants 1-0 dans la série de premier tour face aux Boulders de New York avec une victoire de 11-4, la série qui se transporte à Québec en fin de semaine. Et US Open, Félix Auger-Aliassime qui a remporté son match quart de finale face à Alex de Minaur en 4 manches, puis ça a été serré en tabarouette. Et là, ben demain, Félix Auger-Aliassime va affronter à 19h la raquette numéro 1 actuellement, le joueur le plus hot dans le tennis au moment où on se parle, Yannick Sinner. Puis mettons que Félix Auger-Aliassime devait surprendre Sinner, en finale, il affronterait un de Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz. Fait que tu regardes les 4 joueurs qui restent dans ce tournoi-là au US Open en ce moment aux États-Unis, là. Mettons que Félix Auger-Aliassime est en excellente compagnie. Dans l'actualité, c'est intéressant, ce matin, on a enfin eu plus de détails sur ce qui s'en venait en vue de la rentrée parlementaire. Parce que là, on sait qu'il y a un remaniement ministériel qui s'en vient du côté du gouvernement de François Legault. On se doutait bien que la rentrée parlementaire ne se ferait pas le 16, c'est ce qui était prévu à la base, le 16 septembre exactement de mémoire. Ben là, on repousse ça 2 semaines. C'est l'info qu'on a eue ce matin. Rentrée parlementaire qui se fera donc le 30 septembre. On avait un caucus qui était prévu dans les prochains jours. On le repousse aussi. Et pour ce qui est du remaniement ministériel, qu'on attend pas mal, ben ça s'en vient la semaine prochaine. C'est l'info qu'on a. Est-ce que ce sera en début de semaine prochaine? Est-ce que ça sera en fin de semaine prochaine? Ça a peu d'importance, mais je pense qu'on est plusieurs à avoir hâte de voir bien des affaires. Oui, il y a des rumeurs qui circulent présentement. La presse samedi nous est arrivée avec certaines informations à l'effet que, notamment, Geneviève Guilbeault allait perdre son poste de vice-première ministre du Québec au profit de Sonia Lebel. Est-ce que ça va se concrétiser? On nous disait aussi que Mme Guilbeault allait garder un ministère. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir lequel. Ça fait des semaines que je dis que Geneviève Guilbeault va être envoyée au tourisme ou peut-être à la culture. Mais le tourisme, là, fait des semaines que je l'associe à Geneviève Guilbeault. Et je continue de penser que ça aurait bien du sens. Pendant ce temps-là, autre coup dur pour le gouvernement de François Legault, on s'enligne probablement vers une autre élection partielle au moins d'ici les prochaines élections provinciales de 2026 parce que André Laforêt doit annoncer dans les prochaines minutes qu'elle va se lancer en politique municipale, voudrait devenir mairesse de Saguenay. Et ce qu'on comprend, c'est qu'André Laforêt, qui était ministre des Affaires municipales, devait rester ministre. Puis semble-t-il, c'est le Journal de Québec, TVA, qui avait cette info-là, qu'elle avait dit à François Legault qu'elle allait rester en poste. Fait que là, on se demande, est-ce qu'elle va rester députée au moins? Parce que ça, c'est quelque chose que je ne savais pas nécessairement que Marc-André Leclerc, l'analyste politique à qui on a parlé ce matin dans Marceau le matin, il nous a expliqué que il n'y a rien qui l'empêchait nécessairement, André Laforêt, de rester élu au provincial tout en se présentant en même temps au municipal. Ce serait mal vu. Tu es payé pour faire ta job au provincial. Pendant ce temps-là, tu fais campagne au municipal. Je sais pas à quel point ce serait gagnant pour elle de faire ça, parce que d'après moi, ce genre d'attitude-là lui ferait peut-être perdre des votes au municipal, parce qu'il y en a beaucoup pour qui ça ne passerait pas. Puis en même temps, qu'est-ce que tu gagnes à vraiment rester élu provincial pour quelques mois de plus? Parce qu'on regardait ça un matin là, dans sa circonscription. C'est 99% Parti québécois qui passe aux prochaines élections. André Laforêt n'a pas de chance d'aller chercher un autre mandat au provincial. Fait que bref, elle va se présenter au municipal, tenter de devenir mairesse de Saguenay, bien hâte de voir ce qui va arriver, mais d'après moi, elle va quitter le gouvernement de François Legault, qui aura alors 6 mois pour déclencher une partielle. Et comme je vous dis, c'est 99% Parti québécois qui aurait des chances de remporter cette partielle-là. Et le PQ continuerait donc sur son élan, sur sa lancée. On va clairement suivre ça. C'est à 11h, si je ne m'abuse, la conférence de presse. Fait qu'on va prendre le temps là, dans les minutes suivantes. Si c'est pas avant l'open mic avec Audrey Pinchot, ce sera tout de suite après. Mais c'est clair que je vais vous tenir au courant de ce qui se passe à ce niveau-là. Sinon, juste vous mentionner avant de passer au premier invité du show, Pascal Dufresne, ce qui se passe avec le RTC. Les employés d'entretien qui vont commencer une séquence de 3 journées de grève demain et à moins d'une entente de dernière minute, le service va reprendre lundi. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que demain, il n'y en aura pas de service. Par contre, l'hypothèse de règlement du médiateur-conciliateur a été déposée hier. Aujourd'hui, le conseil d'administration du RTC doit se prononcer. Le syndicat, de son côté, va le faire demain. Si ça passe, si le conseil d'administration dit « Hey, ça a bien du sens, cette hypothèse de règlement-là », si le syndicat dit la même affaire, si les membres votent en faveur, disent « Hey, ça a bien du sens, cette hypothèse de règlement-là », c'est pas réglé à 100% pour autant. Par contre, il y a des chances que la grève s'arrête samedi ou dimanche, puis que la grève ne s'étire pas donc jusqu'à lundi, comme c'est prévu actuellement. Puis si les deux s'entendent sur l'hypothèse de règlement, comme je vous dis, c'est pas fini, c'est une base, puis normalement, ça ferait que ça irait bien mieux pour la suite des négociations, puis que ça pourrait se régler vite, mais ce serait une méchante bonne nouvelle, puis si ça arrive, ben, on pourrait éviter une ou deux journées de grève en fin de semaine. Fait que ça fait pas mal le tour des grosses nouvelles dans l'actualité ce matin, autant dans le monde du sport que dans la politique provinciale. Et c'est l'heure, dans les prochaines secondes, d'aller rejoindre Pascal Dufresne, coach en chef de l'équipe de hockey féminin à l'Université Laval. Radio. h 16 dans le Point de Max à Boulevard 102-1. Grosse nouvelle rapportée en primeur hier par le Journal de Québec. Le championnat mondial de hockey junior 2029 va se tenir à Québec, mais aussi le mondial féminin senior 2027. Deux événements internationaux d'envergure au Centre Vidéotron. Puis parler du mondial junior, je pourrais faire ça pendant des heures. C'est un de mes moments préférés de l'année. M'installer dans le temps des fêtes, pendant des heures et des heures devant la TV pour parfois voir le Canada perdre contre la Lettonie. Ça, je suis capable d'en parler tout seul comme un grand. Par contre, quand vient le temps de parler de hockey féminin, de mondial féminin senior 2027 qui va se tenir au Centre Vidéotron, je l'ai dit en ouverture de show, là, si tu veux parler de hockey féminin à Québec, cherche pas bien loin, c'est à Pascal Dufresne que tu dois parler. Il est coach en chef de l'équipe de hockey féminin à l'Université Laval. Pascal, comment ça va?
Ça va bien.
Good, good. Et j'imagine que pour toi, la venue de ce tournoi-là international féminin à Québec, c'est quelque chose de gros. Tu sais, hier, tu dois avoir trouvé ça cool aussi, là, comme n'importe quel fan de hockey, le mondial junior à Québec. Mais ça doit être spécial aussi là, pour toi, le mondial senior féminin.
Ben oui, c'est extraordinaire. Là. C'est vraiment la crème de la crème. Puis... T'sais, on va avoir la chance d'avoir les meilleures joueuses à travers le pays, à travers le monde. T'sais, faut aussi penser, les gens vont découvrir, en Slovaquie, là, il y a des joueuses extraordinaires qui sont en train de percer. C'est des pays émergents dans le hockey féminin avec des qualités incroyables, là, comme on dit au hockey, des skills vraiment au-dessus de la moyenne. Fait que, t'sais, ça va être super intéressant de vivre ça à Québec. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a vraiment une belle synergie présentement pour le développement du hockey féminin dans la région de Québec, là, avec cette annonce-là, l'annonce du Rouge et Or. Je pense que tout le monde tire dans la bonne direction là, présentement, puis c'est vraiment le fun pour nous là, que depuis tant d'années qu'on travaille sur le hockey féminin.
Ben oui, on va en reparler, c'est sûr, du Rouge et Or. Mais pour rester pour l'instant sur le mondial féminin senior, est-ce que... Tu sais, c'est comme poche à dire, mais c'est comme dans vision du monde, on dirait que c'est, bon, un autre tournoi qui va se finir avec une finale Canada-États-Unis assurée. Est-ce qu'il y a encore ça, le hockey féminin à l'international? Est-ce qu'il y a des pays qui commencent tranquillement à sortir du lot?
Ben, moi, je trouve que oui, ça va être encore ça, probablement. Sauf que, au point de vue individuel, il y a beaucoup plus de joueuses qui ressortent présentement, puis qui deviennent très intéressants, puis qui vont venir... resserrer les matchs un peu. Au niveau collectif, ça va être encore difficile pour quelques années, mais c'est un peu comme je te disais, là, t'sais, au niveau individuel, mais c'est un peu surprenant. T'sais, on a vu là, échapper, Canada-États-Unis échapper des demi-finales puis se ramasser en médaille de bronze. On l'a vu dans les dernières années. Sauf que t'sais, sur l'échiquier mondial, ces deux pays-là vont quand même, au niveau collectif, dominer. Ce qui va être intéressant aussi, que moi, dans ma vision de hockey féminin, c'est que c'est après une année olympique. Mm-hmm. T'sais, l'année olympique va amener des retraites. J'en suis convaincu de certaines joueuses âgées sur le programme canadien. Fait que, t'sais, on va peut-être découvrir de nouvelles joueuses avec des nouveaux talents, une équipe plus jeune au niveau du Canada. T'sais, ça, comme amateur de hockey féminin, là, ça va être intéressant à suivre. Là, quelle équipe qu'ils vont présenter en 2027? Puis c'est ça, avec nos talents locaux qui sont Poulain et Desbiens aussi, là, t'sais, qui vont vouloir assurément performer. Mm-hmm. Une année dans leur maison, dans leur province, ça va être quelque chose.
Pascal Dufresne, t'évolues dans le coaching du hockey féminin depuis longtemps. Tu sais, du côté du Cégep Limoilou, t'as été une tête d'affiche de ce programme-là pendant des années et des années et des années avant de finalement faire le saut à l'Université Laval pour bâtir ce programme-là. Puis comme je dis, on y reviendra. Tu parlais tantôt d'évolution du hockey féminin au Québec. Je pense que c'est un peu partout à travers le monde que ça se voit, puis c'est une bonne chose. À quel point c'est différent? À quel point on a fait des pas de géant? Mettons qu'on retourne 20 ans en arrière par rapport à 2025. Si on retourne en 2000, en 2005, c'était quoi le hockey féminin au Québec par rapport à ce que c'est aujourd'hui?
Ben, je peux te faire une image assez simple que tu vas comprendre. Tu sais, moi, ma première année, dans les années 2000, quand j'allais dans un championnat pour un tournoi de hockey féminin, ben, tu avais des filles de... Un tournoi de hockey féminin, à cette époque-là, tu avais des filles de 14 ans qui jouaient avec des filles de 21 ans.
OK, ouais.
Tu sais, il n'y avait aucune structure de ligue développée à haut différents niveaux comme le hockey civil masculin. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, ben on a du novice féminin, on a de la tombe féminin, on a du pee-wee féminin, on est rendu avec un tournoi pee-wee international avec une classe féminine. Ça aurait impossible d'avoir vu ça il y a 20 ans. T'sais. Ce que le tournoi pee-wee a fait, on est rendu avec une ligue professionnelle. Tout ça est l'évolution du hockey féminin, mais pour nous, dans notre région, là ici, là il y a des pas de géant qui ont été faits dans les... Je te dirais honnêtement, dans les 5 dernières années, là, où on est rendu avec vraiment des équipes féminines complètes, et ça, c'est. On va voir arriver ces joueuses-là là, au niveau à des âges plus élevés là, dans 4-5 ans, ça va être extraordinaire.
À quel point l'arrivée de la LPHF, la Ligue professionnelle de hockey féminin, notamment avec la victoire de Montréal, c'est venu changer la game? Puis là, évidemment, la victoire très populaire à Montréal, c'est bon pour le Québec. Mais même quand on traverse du côté des États-Unis, du côté de l'Ontario, l'arrivée de cette Ligue professionnelle-là, c'est un game changer?
Oui, vraiment. T'sais, ben, présentement, c'est un peu comme Caitlin Clark a fait au basket. Je vais t'avouer, même moi, je suis pas un amateur de basket, mais tu sais, elle a créé cet engouement-là de remplir les arénas de basketball féminin, puis tu sais, le hockey féminin est en train de vivre ça aussi, là, tu sais, au niveau d'avoir des modèles, les jeunes filles y croient, les jeunes filles ont espoir, tu sais, oui, ça va être difficile de percer, mais au moins, ils ont quoi à se rattacher, fait que ça a été vraiment un game changer dans les 3 dernières années, puis ça va continuer comme ça, puis leur modèle d'affaires est bien fait aussi pour vendre le produit. Je trouve qu'ils font bien les choses. Ils ont fait du hockey différent aussi avec des petites règles qui sont très banales, mais qui amènent un petit plus de curiosité au niveau des amateurs de hockey. Ça fait que c'est vraiment bien ce qu'ils ont fait.
Hey, tu parles de modèle, Pascal. Je vais ramener mon exemple de tantôt, de 2000-2005 à aujourd'hui, les différences. Dans le temps, là, quand tu les coachais, ces jeunes femmes-là qui, bon, rêvaient pour certainement de jouer au hockey puis d'en faire une carrière. Est-ce qu'il y en avait beaucoup des modèles ou leurs modèles, ben c'était souvent des gars parce qu'il n'y en avait pas tant que ça dans le hockey féminin? Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors qu'aujourd'hui, ben tu parles à des joueurs, exemple du Cégep Limoilou, j'imagine qu'il y en a pas mal qui peuvent te nommer une Marie-Philippe Poulin ou même des joueuses plus jeunes. Je ne mentirais pas, je ne suis pas le plus grand connaisseur à ce niveau-là, mais ça doit exister aussi cette différence-là qu'aujourd'hui, tu peux vraiment avoir des modèles dans le hockey féminin alors qu'avant, c'était peut-être plus tough.
Oui, vraiment. Puis tu sais, avant, là, réalistement, on en parlait une fois aux 4 ans du hockey féminin, là, c'était durant les Olympiques. Oui. Jamais que tu entendais parler du hockey féminin au quotidien. Là, moi, on était absent sur la. Au niveau des médias, on était absent partout. Puis là, tout est arrivé l'année olympique, tout le monde était connaisseur de hockey féminin. Puis tout le monde parlait de Marie-Philippe, c'était ça, là, 20 ans. Mais aujourd'hui, tu parles de Marie-Philippe Poulin, mais je te dirais qu'ici, dans la région de Québec, là, Catherine Dubois est une méchante belle histoire.
Ben oui.
C'est Catherine qui a joué à Limoilou, qui étudie à l'Université de Montréal, qui a un parcours extraordinaire, puis là, qui joue professionnel, puis qui fait sa place. Et moi, je trouve que c'est une super belle histoire. Puis les jeunes s'identifient justement à ces filles-là qui sont inspirantes. Puis Amy Fecteau, nous, on est dedans. Là, on a la chance d'avoir 3 ou 4 anciennes de Limoilou qui sont dans la ligue professionnelle, qu'on garde contact avec eux autres. C'est vraiment le fun. Mais oui, à part, ils ont des modèles. Puis comme je viens de dire, on en parle plus souvent de hockey féminin présentant, c'est plus un inconnu comme avant.
Est-ce que la Ville de Québec serait prête à accueillir une équipe de la Ligue professionnelle de hockey féminin?
Alors moi, j'ai pas de doute là-dessus. Il serait prêt, sauf que le modèle d'affaires, je pense pas qu'on l'a vu, ils sont allés dans l'Ouest. D'après moi, la prochaine étape, ils vont aller dans le centre. Il faut qu'ils fassent attention aussi au niveau de l'expansion. Là. Ça a fait beaucoup de... Je sais pas si tu as suivi un peu l'activité, là, mais tous les experts en hockey féminin prédisent que Seattle et Vancouver vont finir 1 et 2.
Oui, ça. Les règles avantageaient beaucoup les nouveaux marchés, ce qui n'est pas super cool pour ceux qui étaient là en premier et qui ont mis les bases de cette ligue-là.
Exact. Ceux qui s'identifiaient à des super bonnes joueurs dans leur dans les différentes équipes, ils ont toutes perdu. C'est comme... Fait que, tu sais, je pense que Québec, oui, il y a le marché, oui, il y a l'intérêt, mais je pense que ça va venir un petit peu plus tard. Là, j'ai hâte de voir. Ils parlaient de monter à 8 équipes prochainement. Là, ils l'ont fait. Ils vont-tu monter à 10 rapidement? S'ils montent à 10, je pense qu'ils vont aller dans le centre des États-Unis et dans le centre du Canada. Mais oui, je pense que Québec va être prêt. Je vais lever la main à un certain moment donné, là, puis ils vont être prêts. Puis, l'organisation des remparts est quand même une machine de hockey rodée. Là. Je parle du personnel autour des remparts. Là. C'est pour avoir travaillé avec eux, là, l'équipe de Tommy Castonguay et compagnie. Là, c'est toute une machine de hockey pour l'événementiel. Fait que, oui, je pense qu'il y a de la place à Québec pour ça.
Puis, faut-tu faire attention aussi avec ce ligue-là au danger de trop diluer le produit? Parce que là, oui, il y a l'effet en des expansions, des règles qui avantageaient beaucoup les nouvelles équipes. Mais au-delà de ça... reste qu'en termes de bassin de joueurs de qualité, puis encore là, tu sais, je suis honnête avec toi, je suis pas le plus grand connaisseur, puis je n'ai pas regardé énormément, mais ce que je voyais ressortir beaucoup dans les commentaires par rapport, entre autres, à la victoire de Montréal puis aux autres équipes de la Ligue, c'est que la différence de talent entre les meilleures joueuses et les joueuses qu'on pourrait appeler de profondeur, ben c'est vraiment une énorme différence, puis ça fait que tu sais, t'arrives en prolongation, puis tes joueuses de troisième trio, t'es embarques pas pantoute sur la glace, puis y a-tu ce danger-là d'amener trop d'équipes, puis que là, à un moment donné, ça fasse que la qualité du jeu sur la glace devienne trop diluée, puis moins ça soit moins intéressant?
Ben assurément, moi, j'ai cette inquiétude-là. J'ai hâte de voir cette année-ci que ça va donner. Je vais vraiment être un observateur, parce que moi, j'étais à la même place que les gens. Là, s'ils vont trop vite au niveau de l'expansion, je pense qu'ils vont diluer le calibre. T'sais, déjà, cette année, quand on pense à Montréal, là, ils ont perdu des joueurs d'impact majeur. C'est totalement une nouvelle défensive. Ces filles-là sont toutes prêtes à jouer dans la Ligue? Je ne crois pas. Ils ont quand même des décisions à prendre dans les prochaines années, justement, au niveau du bassin qui arrive. Mais il y a encore d'excellentes joueuses qui jouent universitaire. Il y a encore beaucoup de talents à travers le monde qui ne sont pas repêchés. Mais est-ce que c'est assez pour rentrer encore 40 nouvelles joueuses dans la Ligue? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir comment ils vont travailler. Mais moi, je le regarderais dans mon angle mort, puis je prendrais peut-être une pause de 2-3 ans avant de ramener deux nouvelles équipes pour justement garder le produit intéressant sur la patinoire.
En terminant, Pascal Dufresne, je l'ai mentionné en ouverture de show au début de l'entrevue aussi, tu es maintenant coach en chef de l'équipe de hockey féminin à l'Université Laval, équipe qui n'existe même pas encore. Les débuts vont se faire à l'automne 2026. Parle-moi de ce nouveau défi-là pour toi. Qu'est-ce qu'il y a devant toi comme travail dans les prochains mois jusqu'à temps que l'équipe fasse ses premiers coups de patin en 2026?
Ben c'est sûr que mon travail premier en ce moment, puis là ça commence à bouger parce que là il y a du monde dans les arénas, c'est vraiment le recrutement. Mais la réponse est extraordinaire. T'sais, je te cacherai pas, tout le monde a de l'engouement à venir visiter, à venir me rencontrer, à venir voir les installations du Rouge et Or. Tu sais, j'étais un peu moi aussi un nouveau du Rouge et Or, fait que tu sais, j'étais partisan, tu sais, je suivais le Rouge et Or dans les sports, mais c'est là d'être dans l'intérieur, de voir des Hélène Constantin, des Dino Brousseau travailler, des tu sais. C'est extraordinaire là, le programme qu'il y a dans cette université-là. Fait que, tu sais, puis que j'y vois là, tous les efforts qu'ils mettent en place pour instaurer le programme de hockey de la manière qu'ils vont le faire, les installations qu'ils vont nous doter. C'est vraiment stimulant, là, mais le gros du travail, c'est vraiment le recrutement. Je te cacherai pas, il faut quand même emmener. Tu parlais de bassin tantôt, mais on le vit à notre niveau. Ouais. Tu sais, il faut que j'amène 23 nouvelles joueuses dans le réseau. Puis là, pendant ce temps-là, ben des autres équipes universitaires québécoises ont besoin de joueuses aussi. Ça fait que ça fait à peu près une quarantaine de joueuses qu'on a besoin dans le réseau pour l'année prochaine. Fait que c'est un gros défi, mais l'engouement est là. Puis les gens, en tout cas, tous ceux avec qui je parle ont vraiment beaucoup d'intérêt pour le Rouge et Or. Puis c'est vraiment le fun. J'ai pas... Tu sais, l'étape de la crédibilité du programme, j'ai pas besoin de passer à ce step-là. Tu sais, là, il faut que je passe à l'autre step de dire, mais voici quel genre d'équipe qu'on va mettre sur la glace. Puis... quel genre de recrutement. C'est un beau casse-tête, mais c'est un super défi pour moi, puis je t'ai rendu là dans mon cheminement là, de passer à l'autre niveau.
Pascal, merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin.
Ben, merci à toi, c'est vraiment gentil de parler de hockey féminin, puis c'est une belle nouvelle.
Toujours un plaisir, salut.
Salut.
Pascal Dufresne, coach en chef de l'équipe de hockey féminin à l'Université Laval. On a jasé entre autres de l'annonce de la tenue du Mondial féminin senior de 2027 au Centre Vidéotron. Annonce qui va se faire dans les prochaines minutes officiellement. On va annoncer en même temps le Mondial junior 2029 à Québec. Fait que des belles nouvelles pour notre ville. Petit tour dans la circulation. La circule qui est bloquée présentement sur la 41e rue entre la 2e et la 6e avenue suite à un accident. Plus de détails à venir. Au retour, André Bernier, il est directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. On jase de la rentrée scolaire 2025 qui a été tout un casse-tête.
Le Point de Max. Le Point de Max.
Oh, que c'est pas une semaine facile sur les routes à Québec. Encore quand même bien jamé pour l'accès au pont Pierre-Laporte en direction nord. Sinon, ben, je vous le mentionnais avant de partir en pause. On va prendre le temps de le mentionner à nouveau pour ceux que ça peut impacter. C'est du côté de la 41e rue entre la 2e et la 6e avenue. Il y a un accident qui cause que la circulation soit bloquée en fait présentement. Donc, s'il y a quoi que ce soit, 88-971-1021. C'est 20 degrés présentement à Québec, 23 ressentis avec du soleil. Demain, c'est une autre belle journée. Samedi, un peu moins beau, mais à part ça, dans les prochains jours, ça va quand même assez bien. 10h37, c'est le temps d'aller rejoindre notre deuxième invité, André Bernier. Il est directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Monsieur Bernier, bonjour.
Bon matin à vous.
On a beaucoup parlé d'éducation dans les derniers mois au Québec avec, entre autres, les coupures de Bernard Drainville. Puis là, le gouvernement qui disait « c'est pas des coupures, c'est juste un niveau d'investissement moins important ». Bref, on jouait beaucoup sur les mots, puis c'est quelque chose qui a été critiqué. Et parlant de critique, l'Association québécoise des cadres scolaires, qui n'est pas votre association directement, mais on est dans les mêmes eaux, est sortie avec un communiqué dans les dernières semaines titré « Les cadres scolaires ne veulent plus jamais avoir à préparer une rentrée scolaire comme celle de 2025 ». Est-ce que vous partagez une vision semblable?
Ah, totalement. Je partage assurément la vision là, de mon collègue, là, M. Parent, de la QCS. Effectivement, on ne veut plus vivre ça parce que on a travaillé en double. On a travaillé à faire des coupures à partir du mois d'avril en se disant, OK, il faut arriver avec les cibles qui ont été fixées. Travail fort. Juin, on se fait dire que, oups, faut encore couper encore plus. 16 juillet, on apprend que, ah, finalement, il y a un supposé réinvestissement, mais c'est plus autant que ce qu'on a fait couper. Donc, les directions d'école ont fait que ça, là. De faire, défaire, revoir, réaffecter, retravailler le budget, ça n'a aucun sens, le travail là, qui a été mis autant par les cadres scolaires que les directions d'école.
Mais c'est ça. Dans le concret, là, vous avez parlé du fait que, bon, là, on travaille avec les coupes, puis là, on travaille avec la réinjection. Grosso modo, c'est à peu près un demi-milliard de dollars, là, 500 millions dont on parlait autant pour les coupes que pour ce qui a été réinjecté. Comment on a travaillé avec ça, autant pour les coupures que pour le ramener les investissements après? Ça a dû être tout un chaos.
Le terme chaos est tout à fait approprié parce qu'on est parti avec une première donnée au mois d'avril où on nous donnait un chiffre par rapport à une cible d'effectifs où on devait se dire, OK, est-ce que dans l'organisation, le centre de service, on est correct en termes de personnes? Par après, on nous a dit, ben le financement pour votre nombre de personnes correspond pas nécessairement à ce qu'on avait prévu, c'est moins. Fait que là, il fallait recouper encore. Et par la suite, quand on a eu la nouvelle en juillet, ben là, il fallait voir comment on pouvait remettre de personnes, mais il fallait penser que tous les plans d'effectifs, ou presque, étaient terminés, déposés, les gens étaient assis sur les chaises, les coupures avaient été faites, on n'était pas capable de revenir en arrière.
Au niveau de, quand tu regardes les plus, les moins, puis les colonnes, là, en bout de ligne, c'est-tu comme si rien n'avait changé? Quand on parle juste d'argent, là, ou les conditions imposées par Bernard Drainville pour venir toucher ces sommes-là changent quelque chose? Parce que ce que Bernard Drainville a dit quand il est arrivé en sauveur, là, en disant « on ramène les investissements », c'est à condition que ce soit vraiment utilisé pour les services aux enfants. Est-ce que ça vient un peu vous lier les mains à certains niveaux?
Non. je trouve que le commentaire, la manière que ça a été amené par M. Drainville, c'est très réducteur. C'était comme si les cadres des centres de services et les directions d'école gaspillaient l'argent et achetaient un peu, dépensaient pour un peu n'importe quoi. La très grande majorité des sommes dans une école, c'est pour le service à l'élève. C'est les masses salariales du personnel enseignant, des TES, des éducateurs en service de garde, psychologues, orthophonistes, orthopédagogues. C'est ça que ça paye. Le reste, c'est des sommes qui sont minimes comparativement à la masse salariale. Donc, les coupures qu'on a eu à faire, c'est comme j'ai déjà dit, c'était pas dans du gras qu'on coupait, c'était dans l'os qu'on allait chercher. Ouais. Parce qu'on coupait un service d'une TES, un service d'un psychologue, des choses comme ça. Là, on peut réinvestir, oui, mais la psychologue qui est assise sur une chaise puis qui a dit, ben moi, 50%, je travaille pas, je vais quitter pour aller travailler au privé ou ailleurs, ben on n'est pas capable de retourner la chercher parce qu'il est trop tard.
Ben c'est ça. Y en a-tu beaucoup de cas comme ça, à votre connaissance, de gens qui ont été coupés du réseau à cause des restrictions budgétaires puis qu'après ça, ben l'école a essayé de rappeler puis que la personne en question a dit, ouais, ben c'est bien plate, mais moi, je me suis trouvé une job ailleurs?
Oui, il y a eu des cas. Je pourrais pas vous donner le nombre, mais il y a eu des cas dans la plupart des centres de services, que ce soit au niveau du personnel de soutien ou au niveau du personnel professionnel. Il y en a eu parce que les coupures ont été variables. Ça dépend. Il y a des secteurs où on a des pénuries beaucoup plus grandes que d'autres. Donc, avec la pénurie est plus grande puis qu'on a ça, ça vient exacerber la problématique.
Est-ce que Bernard Drainville, parce que vous avez parlé d'un genre de ton réducteur tantôt quand il a fait la leçon, puis de dire « vous allez pouvoir toucher l'argent si c'est bien investi dans les services aux élèves », est-ce que Bernard Drainville, ministre québécois de l'Éducation, a une bonne connaissance de ce qui se passe vraiment dans nos écoles puis de comment c'est géré?
Je suis obligé de vous dire que, à l'occasion, j'en doute, parce que les centres de services, incluant les écoles, sont parmi celles qui ont les taux liés à l'administration les plus bas au niveau de la province. On est autour de 4 % du budget pour tout ce qui est administration, ce qui est très bas là en termes de pourcentage. Le reste, ça veut dire que c'est du service à l'élève là qui est donné, ou c'est de l'investissement pour la rénovation des écoles et tout ça là. Mais de nous dire qu'il faut optimiser, oui, je peux pas dire que je suis pas d'accord, là. Il y a toujours place à s'améliorer, puis les directions d'école, on l'a toujours dit, on va toujours être là pour collaborer. Mais consultez-nous, travaillez avec nous, travaillez avec les cadres scolaires, on est sur le terrain, c'est nous qui le vivons. Donc, c'est ce bout-là là, qui a manqué de dire, OK, on va réinvestir, mais avec sans avoir posé de questions préalablement de comment il aurait pu faire les coupures et comment il aurait pu nous le dire à l'avance, parce que tout le fait que ça a été sur quoi? Quelques semaines, 3-4 semaines qu'il a fallu se tourner de bord pour tout refaire ça, alors que si on l'a, puis on n'optimisera pas le service de 3 commissions scolaires d'une région en 3 semaines. Il faut se préparer. Il faut décider quels services on décide d'optimiser. Il faut travailler ensemble. Ça se fait pas n'importe comment. Donc, s'il y avait eu consultation, puis il y avait eu travail de collaboration avec les partenaires de l'éducation, on aurait pu aider le ministre et le ministère là à arriver à des décisions qui auraient eu beaucoup moins d'impact puis qui n'auraient pas causé des cris, des pleurs comme ça le fait là, ce printemps.
André Bernier, directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Évidemment, ben vous jasez avec plusieurs membres de direction d'école. Est-ce que le ministre Drainville, au sein, puis ça rejoint un peu mes dernières questions, mais au sein des directions d'école, a encore une crédibilité après cet épisode-là, justement, d'annonce à la dernière minute, puis d'en revire le bord, puis...
Je suis obligé de vous dire que c'est très ébranlé. Là. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de gens qui se posent la question de pourquoi il nous a pas parlé, pourquoi des coupures comme ça, qui font paraître qu'on a un système qui est tout croche et qui fonctionne pas bien, qui est mal géré, alors que les gens sont sur le plancher jour après jour, comptent pas leurs heures, les redditions de comptes pour les directions d'établissement s'accumulent, on n'a pas eu nécessairement de considération dans la dernière négociation non plus. Fait que je vous dirais que c'est très affecté, le moral des troupes est affecté là, par le peu de
de retour qu'on a du ministre et du ministère par rapport au travail qui est fait puis aux conditions d'emploi.
Je fais un petit tour sur le compte X de Bernard Drainville, tant qu'à être sur son dos. Dans les dernières semaines, il a publié plusieurs mises à jour du fameux tableau de bord du gouvernement sur les chiffres, les données en éducation. Et sa dernière mise à jour, c'était hier, où il écrivait « Personnel scolaire, ça s'améliore encore. 99% des postes enseignants, 95% des postes de personnel de soutien, 92% des postes de professionnels sont comblés. L'école existe pour les élèves. On veut leur donner le plus de moyens possible pour aller au bout de leur potentiel. » Est-ce que quand vous voyez ce genre de publication-là du ministre Drainville, alors que hier, quand ça a été publié, la rentrée est faite pour tout le monde, puis qu'on est comme content qu'on s'approche du 100%, mais on ne l'atteint pas dans aucune catégorie, là. Mais pour le ministre Drainville, ça a l'air d'être des super bonnes nouvelles. Comment on l'analyse, ça, de votre côté?
Ça peut pas être une mauvaise nouvelle qu'on soit proche du 100%, puis que ça soit moins pire que l'an dernier. Mais c'est quoi le pourcentage de personnel non légalement qualifié qui se retrouve dans les salles de classe, qui se retrouve à jouer un rôle de TES, qui se retrouve en service de garde? Ça, ça a un impact parce que tous ces gens-là doivent être accompagnés en proximité par des directions d'établissement pour s'assurer qu'ils comprennent leur rôle, qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, puis que s'ils ont des défis, qu'on les accompagne, qu'on leur donne l'accompagnement nécessaire pas à pas pour leur montrer comment bien faire le travail, pas les laisser comme ça, sans aucune ressource.
Mais c'est intéressant, ça, le non légalement qualifié, parce que j'ai l'impression qu'on a encore une compréhension approximative de ce que c'est. T'sais, on s'entend, quand un prof, on dit qu'il est non légalement qualifié, c'est pas n'importe qui que tu pognes dans la rue, que tu mets en avant d'une classe non plus, mais on l'a assoupli pas mal dans les derniers mois aussi. Est-ce qu'on l'a trop assoupli aux yeux des directions d'école?
Moi, je vous dirais, M. Larouche, qu'il faut toujours se poser la question pourquoi, en éducation, on est prêt à mettre passablement, je dirais pas n'importe qui, là, parce que je veux pas être non plus réducteur, là. Les gens ont quand même une qualification pour être là, mais n'ont pas besoin d'avoir un baccalauréat en enseignement, mais ça passerait jamais qu'un plombier non légalement qualifié fasse le travail chez nous. Moi, je me suis, tu sais, puis les gens dans les écoles se posent cette question-là. Puis on est content de les recevoir, les gens qui n'ont pas la qualification, parce que ça devient des collègues de travail, parce qu'on les accompagne. Ils vont chercher la reconnaissance et souvent un baccalauréat pour devenir légalement qualifiés. Mais l'éducation au Québec a tellement pas été valorisée dans les dernières années, pour pas dire décennies, que ça a des impacts, puis on le voit très clairement. Pendant des années, on s'est fait dire « Ah, les enseignants, les directions, on le sait bien, vous êtes bien, vous êtes en vacances tout l'été. » C'est des vacances qui sont, je vous dirais, très amplement méritées. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui l'ont vu pendant la pandémie, que d'avoir les enfants à la maison, à la journée longue, puis devoir enseigner à la maison, c'était pas facile. C'est le système scolaire, on a une connaissance, on a des formations qui nous permettent de bien travailler avec les enfants. On est des spécialistes de l'apprentissage, donc on peut pas mettre n'importe qui. Je voudrais pas avoir n'importe qui m'opère. Ben c'est la même chose. Je veux pas avoir n'importe qui dans une classe qui forme les futurs citoyens de demain.
Est-ce que au niveau des problèmes de main-d'œuvre, on pense que la situation peut s'améliorer à court ou moyen terme, ou on se demande un peu, on s'en va où justement, en se disant bon, peut-être qu'on va avoir du monde en effet devant nos groupes d'élèves, des non légalement qualifiés ou des légalement qualifiés, mais qu'on va devenir lousse un petit peu. On voit comment pour la suite des choses pour les prochaines années. On est-tu confiant ou on se sent perdu?
Les données nous disent que le creux historique là, de la pénurie de personnel, c'est 2030. Quand on le regarde comme ça, c'est dur d'être positif là, par rapport à ça. On le sait, au Québec, notre population est vieillissante. On a une chance, on a quand même eu beaucoup d'immigration, on a des gens qui sont là pour venir nous donner un coup de main. Il y en a qui ont leur formation en enseignement ou pour divers métiers liés à l'éducation qui nous donnent un bon coup de main. Grâce à Dieu merci, là, ça vient nous compléter nos rangs et nous aider. mais ça va être difficile. Les prochaines années, on est loin d'avoir passé à travers le creux. Il va falloir redoubler d'ardeur, il va falloir attirer plus de gens au niveau là, de l'éducation, les bacs en enseignement, les techniciens en éducation spécialisée et les services de garde. Faut pas les oublier. C'est une des places où c'est criant le manque de personnel. Faut réellement pas oublier ça. Là. Ils ont des conditions qui sont pas nécessairement toujours faciles parce que c'est pas le même encadrement qu'une classe. T'sais, on veut plus de liberté, mais plus de liberté amène plus de possibilités là, de que ça bouge un peu beaucoup plus, disons-le comme ça.
Monsieur Bernier, avant de vous laisser partir, j'ai pas le choix de vous questionner sur une nouvelle qui était tombée il y a quelques mois. Alors que les directions d'école se sont fait imposer des conditions de travail par le gouvernement, ça avait mis à ce moment-là fin aux négociations. On en est où dans ce dossier-là des négociations entre les directions d'école puis le gouvernement?
En termes clairs, au niveau de ce qui est monétaire, les négociations se sont terminées lorsqu'il y a eu le décret. Il y a toujours au niveau là, de ce qui est non monétaire que ça se poursuit, la retraite, les assurances, là, des choses comme ça se poursuit. Mais ça a été reçu là, comme un coup de poing en plein visage là, par les directions. Là. Pour une fois, on avait la possibilité de négocier et on s'est fait décréter, alors que dans toutes les autres négociations que j'ai pu vivre depuis que j'étais directeur d'école, ça n'était jamais arrivé. On était toujours en arrivé à une entente. Donc, vous comprendrez que c'est frustrant pour les gens.
Parce que là, quand vous dites qu'au niveau monétaire, c'est fini, les négociations, il n'y en a plus, puis là, ça a été signé, mais juste d'un bord, puis c'est ça vos conditions, puis c'est terminé, puis vous n'avez pas un mot à dire, c'est bien ça?
C'est exactement ça. Même si nous, on avait dit qu'on voulait travailler d'autres aspects au niveau sectoriel, ce qui veut dire en lien avec l'éducation, ben ils nous ont dit non, il n'y a pas de budget, on va pas là. La négociation, c'est décrété, c'est terminé. Il n'y a plus de place à un discours de sens qui va aller dans les deux sens.
André Bernier, directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école, merci beaucoup pour votre temps ce matin.
Ça me fait plaisir.
Bye-bye.
Au revoir.
Est-ce qu'on voit à quel point le ministre de l'Éducation, Bernard Drainville, a perdu, j'allais dire, toute crédibilité? On va être fin ce matin. A perdu beaucoup de crédibilité. André Bernier, je vous rappelle, directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école, c'est à lui qu'on jasait dans les dernières minutes. Je l'ai lancé à la base sur la sortie d'une autre association, celle des cadres scolaires, qui disait il y a quelques semaines, les cadres scolaires ne veulent plus jamais avoir à préparer une rentrée scolaire comme celle de 2025. Puis André Bernier est allé exactement dans le même sens en parlant de ce chaos à partir du moment où on enlève des sommes d'investissement dans nos écoles, on les redonne. On dit aux écoles, ouais, on va vous surveiller, vous êtes mieux d'utiliser ça comme du monde, comme si avant c'était dépensé un peu n'importe comment. M. Bernier qui cache pas qu'il y a de l'optimisation à faire à certains niveaux, puis c'est bien correct. Par contre, se faire prendre par la main comme ça par un ministre qui n'a pas l'air d'en connaître beaucoup dans le monde de l'éducation, ça semble pas très, très apprécié. Un de vos moments préférés de la grille de boulevard 102.1 s'en vient dans les prochaines minutes, l'open mic avec la pétillante Audrey Pinchot. C'est le Point de Max à Boulevard.
Le Point de Max.
11h ben pile dans le Point de Max à Boulevard 102.1, 418-971-1021, le numéro pour nous rejoindre en studio par texto. Vous rappelez que dans la circulation, il y a quelques problèmes, notamment circulation qui est bloquée sur la 41e rue entre la 2e et 6e avenue. C'est suite à un accident. Si vous avez des détails là-dessus, n'hésitez pas à m'écrire. Sinon, pour l'accès au pont Pierre-Laporte, direction nord, encore quelques problèmes. C'est pas facile depuis genre 6h30 ce matin. À la circulation là, comme semaine, c'est assez terrible. À la météo, ça a bien de l'allure, par contre, comme semaine et particulièrement comme journée. C'est 26 degrés qu'on attend. Présentement, on a 20, mais 23 avec l'humidex. Ce soir et cette nuit, c'est 14 degrés avec des averses, mais le soleil qui sera de retour demain avant que la pluie s'installe à nouveau en soirée demain et elle va rester là pour ce qui est de samedi et dans la nuit de samedi à dimanche. Mais dimanche, retour du beau temps jusqu'à au moins mercredi de ce que je vois sur les radar. Dans l'actualité, une nouvelle pas mal de dernières minutes. Guy Rocher, le sociologue qui est décédé dans les dernières heures à l'âge de 101 ans, aura des funérailles nationales. Guy Rocher, qui est reconnu comme étant un des acteurs importants de la Révolution tranquille au Québec. Tu sais, tout ce qui est création des cégeps, la réforme du système scolaire dans la province, ben, c'est notamment à Guy Rocher qu'on doit ça, pour ne nommer que ça. Il y a eu beaucoup à faire dans la laïcité de l'État également. Et donc, François Legault a annoncé qu'avec l'accord de la famille et des proches de Guy Rocher, on allait tenir des funérailles nationales. Pendant ce temps, à la télévision, on voit la ministre des Affaires municipales de la CAQ, André Laforêt, faire le point sur son avenir. Ce qu'elle annonce, du moins avec les infos qu'on avait ce matin, c'est qu'elle quitte, ou du moins, on ne sait pas encore si elle quitte, mais elle veut s'en aller à la mairie de Saguenay. Puis il y a là encore le petit point d'interrogation, c'est que... Ce que nous disait Marc-André Leclerc, analyste politique ce matin, c'est qu'il n'y a rien qui empêcherait la ministre Laforêt de rester députée de la CAQ tout en faisant campagne au municipal. Ça ne ferait pas beaucoup de logique. Je pense qu'elle se tirerait dans le pied et qu'elle perdrait des votes en faisant ça, parce que le monde se dirait ça n'a pas de maudit bon sens que tu sois payé à être député provincial pendant que tu fais campagne au municipal. Mais qui sommes-nous pour juger? Ce sont les Saguenayens qui auront l'occasion de juger quand ils se rendront voter pour leur prochain maire ou prochaine mairesse. Audrey Pinchot qui se joint à moi en studio. Audrey, salut!
Hey, bon matin!
Ça va bien?
Ben, ça va très bien. En forme, toi?
Très en forme.
J'ai entendu dire que t'étais raqué, ça se peut-tu?
Qui t'a dit ça?
Hey, on aura l'occasion de s'en reparler en masse, là. Je veux qu'on mette la table avant, là. Mais j'ai entendu dire que t'en as profité ce matin pour me jouer un peu dans le dos puis dire de la chenoute en onde.
L'open mic.
An open mic, I knew.
De quoi tu parles, Audrey?
On va rétablir les faits.
Quels
faits? Max, on va rétablir les faits. Hier, Max et moi, on s'est joints à une gang de monde pour aller jouer au ballon canadien, jeu auquel j'avais jamais joué. Puis je tiens à dire que j'ai pas été si mauvaise que ça, contrairement à ce que tu as essayé de faire passer ce matin.
Audrey, je t'ai mis out au moins trois fois.
Deux fois. Troisième, tu l'as échappé, la ballonne.
Non, attends, oui. Mais il y a deux fois que tu m'as envoyé... Parce que ballon canadien, là, pour ceux qui connaissent pas ça...
C'est du baseball avec un ballon de soccer.
Ça a l'air, justement, ce matin, c'est Marceau qui m'a appris ça, qu'on peut appeler ça du kickball aussi.
Ah oh ouais,
ça
c'est fait, plus cool un
ça
peu,
fait
hein?
Pas mal. Ballon canadien, ça fait très amis pas d'amis. Kickball, ça fait plus cool. On reviendra sur les amis pas d'amis. Mais ouais, c'est ça, c'est comme du baseball, mais que tu bottes un ballon de... Je pense que c'est pas supposé être de soccer. Nous autres, on jouait avec un ballon de soccer. Bref, deux fois, Audrey Pinchot, tu me l'as envoyé
direct. Tu l'as attrapé deux fois, oui. Puis tu m'as mis out une fois. T'as raison.
C'est ça,
donc,
pour un total de jeter éliminé du jeu trois fois.
Mais je suis contente que ça te fasse du bien, Max, à l'ego, parce que je tiens à dire que ton équipe a perdu contre la mienne, là, juste rétablir les faits. On a gagné deux fois sur vous autres, puis pas de comme 2-3 points. Là. On a solidement gagné.
Ouais, mais moi, j'étais bon, puis
t'étais bon,
ça
puis t'es raqué à matin.
Pour vrai...
T'es solidement raqué. Mets ton ego de côté, la rouche, là.
Ouais, je suis raqué.
Votre équipe a perdu, oui, puis t'es solidement raqué.
C'est beau. Qui a été choisi la toute dernière au moment de faire les équipes?
Moi, puis sais-tu quoi, tu peux pas piquer un ego là-dessus parce que je suis habituée. Quand j'étais jeune, j'étais toujours choisi la dernière.
Ça t'a pas rappelé des mauvais souvenirs, puis t'as pas passé proche de pleurer?
Ben, sais-tu quoi, pour être honnête, je m'y attendais. Mais je pense qu'à un moment donné, tu te fais une carapace, puis tu le sais que dans ces jeux-là, tu vas être choisi dernière.
Parce que moi, j'ai pas eu à être choisi. Tu sais, je veux juste le partager à tout le monde comme ça parce que
t'étais chef d'équipe.
L'athlète que je suis, moi, mais attends, ça a pas été déterminé au hasard. Là. Je veux juste qu'on mette bien la table. Comment on a déterminé les chefs d'équipe, c'est qu'on voulait vraiment prendre les deux meilleurs athlètes de la place. Donc, on a fait une course. On a fait une course, à peu près un 100 mètres qu'on a fait. Et j'ai terminé premier.
Maxime Larouche, quoi? Je pense que t'es l'individu que je côtoie au quotidien qui a le plus d'égo.
Ben, c'est-tu vrai ce que je dis?
C'est fascinant. Ben, absolument, ben, ça, je te le donne. T'étais chef d'équipe, ça a bien été.
J'ai gagné la course.
T'as gagné la course, Max. Faut dire que c'était vraiment une soirée pour s'amuser, là, mais,
ouais.
Mais pour Max, tout est une compétition.
Ouais, bref, oui, je suis raqué, ça, je vais te le donner.
Fais-moi plaisir. Avoue que tu m'aurais pris dans ton équipe. Avoir su.
Mettons que je... Ben, le plaisir de te voir être choisi dernière parce que c'est la dernière qui reste dans la ligne.
Je savais que tu faisais exprès.
Ben oui, mais le gars à côté de moi, il était pas dans le coup, là.
Non, il était pas dans le coup, puis il m'a choisi dernière,
ouais,
aussi,
ça.
Effectivement.
Ben, il t'a pas choisi. T'étais à la dernière, c'était son tour de choisir.
Il avait pas le choix. Mais je pense qu'il est content, finalement, de m'avoir eu dans son équipe. Honnêtement, je me suis trouvée vraiment moins mauvaise que je pensais.
T'étais correct.
Correct, bon.
Très correct. T'étais très correct.
Bon, vous en avez un Larouche, je vais le prendre. Fait que pour vous mettre en contexte, hier, on était là dans un contexte, justement, très précis.
Oui.
On était
tu vas
là...
pas jouer au ballon canadien par hasard. Je savais même pas c'était quoi le ballon canadien.
Non, puis pour être bien honnête, moi, j'ai pas de gens dans mon entourage qui se rassembleraient une soirée, un mercredi, pour aller jouer au ballon canadien.
Y a-tu du monde qui joue au ballon? Y a-tu des ligues de ballon canadien? 418-971-102. Pour vrai, y a-tu du monde qui joue à ça, le ballon canadien?
C'est une ligue, j'embarque, je pense.
Le kickball. Ben, pour vrai, j'ai eu vraiment. Hey, mais pour revenir au fait que je suis raqué, puis y a un des gars qui avait sa montre sur lui, puis à la fin, quand on est allé reprendre les calories qu'on avait perdues à crème molle à côté, le gars dit « Hey, j'ai couru 3,5 km. »
Ça en dit long, là.
Mais, tu sais, là-dedans, là, c'est parce que c'est pas du... Tu sais, tu cours, là, tu sprintes, puis là, on jasait un peu, puis on essayait de voir si je devais avoir couru à peu près la même affaire, puis de nos calculs, vu que ton équipe, Audrey, était meilleure, je l'admets, puis que j'étais comme à une position où j'ai couru beaucoup, beaucoup... Je dois avoir couru pour vrai 4-5 km.
Honnêtement.
À la pine à la planche.
Puis c'est pas. Pour ceux qui se disent, voyons, mon Dieu, je suis pas en forme à ce point-là, c'est pas pour moi. Je considère que moi, Max, on est loin d'être en forme dans la vie. Puis ça se fait vraiment bien. Là. Ça se fait vraiment bien.
Ouais, j'étais brûlé, mais c'était cool.
C'était cocasse. On en parle ce matin dans un contexte où je veux vous parler de solitude. Puis là, je vous avertis, ce sera pas d'une lourdeur intense,
non,
mais j'ai fait une réalisation.
C'est beau.
Oui, puis honnêtement, j'étais celle qui était probablement le plus dans le jugement parce que je me considère vraiment chanceuse dans la vie. Je suis très bien entourée. Puis je le réalise plus que jamais dans les dernières semaines. J'ai un entourage qui est très présent. J'ai la chance d'avoir des amis qui sont là quand mm-hmm. les besoins sont là aussi. Puis je me suis dit, je suis pas le genre de personne qui a besoin de se faire des amis de plus, tu sais. Mais en même temps, des amis, il en existe de toutes sortes. T'as ton cercle, ta garde rapprochée, mais je veux dire, t'as des bonnes connaissances, t'as des gens que tu croises au quotidien, puis je pense que tu peux jamais en avoir trop non plus.
Exact.
C'est un peu ce que je réalise. Dans un univers où c'est difficile de rencontrer, autant en amour qu'en amitié, j'ai le goût de dire, rendu là, parce que les amitiés d'aujourd'hui, c'est des amis Facebook en majorité. Là. On va se le dire, on côtoie juste dans notre domaine là, médiatique, pour vous donner une idée, le nombre de fois où chaque été, pendant les festivals, je croise du monde qui font même job que moi, puis qu'on est comme, hey, on s'est-tu déjà croisé?
Ouais.
C'est juste l'effet Facebook, que t'as l'impression que tu sais toute sa vie de l'autre, puis que tu le côtoies au quotidien, tu sais. On est très, très envahis par les réseaux sociaux. Puis 88-971-1021, je sais pas si vous vous sentez comme ça. Je sais pas si vous vous sentez seul au quotidien. Puis quand je dis seul, là, t'as un entourage, des amis, puis une famille, tu peux te sentir seul pareil en passant. Il y a du monde qui prennent pas le temps de voir leur monde au quotidien.
Puis j'ai l'impression aussi qu'il y a tellement de monde dans une situation précise qui est j'arrive dans une nouvelle ville, puis.
Je connais personne.
Tu sais, mettons, je prends mon exemple. Je peux prendre mon exemple. Je m'en vais au cégep à Jonquière, à 8 heures de route de chez nous à Val-d'Or. Je me fais des amis au cégep à Jonquière. Ça, c'est cool. Tu vas à l'école, nanana. Ça peut être vrai pour quelqu'un qui vient à Québec, puis qu'à l'université, se fait des amis à l'université Laval. Moi, quand je suis arrivé à Québec, en pleine COVID, là. Comment tu veux que je me fasse des amis à part des amis de job?
Absolument. Puis là, nous, on parle étant dans la vingtaine, mais j'ai réalisé dans les dernières heures que dans la trentaine, la quarantaine, la cinquantaine, t'avais des gens qui avaient ce besoin de reconnecter. Là, on est rendu à ça, essayer de trouver des alternatives pour nous permettre de connecter de façon humaine. Puis tu sais, il y a eu des belles initiatives dans les dernières semaines qu'on a jugées en ondes, à bien ou à tort. Je pense aux bancs bleus de la ville de Québec qui ont pour but de briser la solitude, qui ont été installés, des gens qui ont dit « Voyons voir si ça va marcher. »
Que je trouve ridicule.
T'es-tu sérieux?
Moi, je trouve ça ridicule. Mais
qu'est-ce qui est ridicule?
Ben, c'est ça, je le sais pas pourquoi.
Ben, je trouve ça bien que tu me dises ça, parce que je pense qu'on avait besoin de taper sa tête de voyons que le maire marchand, ce qu'il fait, c'est nous mettre des bancs bleus au lieu de régler nos problèmes de transport.
Ah, mais moi, c'est même pas ça, c'est pas ça pantoute. C'est juste, qui va aller s'asseoir sur un banc bleu, puis quelqu'un d'autre va y arriver, puis qu'ils vont se jaser?
Qui va se pointer un mercredi soir pour jouer au ballon canadien
issu
d'un groupe
Facebook? C'est différent.
Bien, je pense que ça dépend, Max, parce que je pense qu'il y a des gens qui peut-être sont trop gênés pour lever la main, pour assumer, mais que peut-être ils vont aller s'asseoir sur ces bancs bleus-là, puis ça va ouvrir des discussions. En même temps, je ne l'ai pas essayé, l'affaire des bancs bleus.
Puis moi, l'affaire, puis je dois être honnête en le disant, c'est que le rassemblement dont on vous parle, puis dont on va vous parler plus en détail dans les prochaines minutes, si c'était pas du fait que c'est des amis à moi qui ont parti le groupe puis qui m'ont forcé à venir avec eux autres au premier rassemblement en se disant « Hey, au pire, il y aura personne, ça va être drôle. » ben je serais jamais allé. Là, hier, c'était le troisième. Puis là, à partir de maintenant, même si eux me disent « Hey, mercredi, nous autres, on a un empêchement, on peut pas y aller », ben là, j'irai par moi-même. T'sais, mais le premier, là, jamais je serais allé là tout seul. Voyons donc.
Plusieurs textos qui rentrent tellement. 100% de mon côté, je me sens souvent seule, même si le week-end, on fait des activités de gang. Me dire que la semaine, je trouve ça souvent long. Et, salutations, je comprends. Il y a des gens qui disent « Mon chien me sauve la vie. Moi, une chance que j'ai mes animaux, parce que sinon, je me sentirais très, très seule. » Tough aujourd'hui à 32 ans de rencontrer en amitié ou en amour. Puis c'est ce que j'ai réalisé justement dans les dernières heures. Et, quand on parle d'initiatives comme... Parce qu'on parle d'un groupe Facebook ici qui s'appelle « Les amis, pas d'amis ». Okay? Quand on parle d'initiatives comme celle-là, la majorité des gens ne se sentent pas concernés. Et on juge, on trouve que c'est un peu loser, que c'est fait sûrement pour les gens qui sont enfermés dans le sous-sol qui jouent à Donjon Dragon. Là,
ben oui.
C'est un peu l'image que j'avais. Pis c'est drôle parce que je vous l'ai dit, moi, je me considère bien entourée. J'ai pas besoin d'amis de plus, mais hier, ma mentalité a changé. Parce que des gens seuls ou qui se sentent seuls, il y en a des poignées et des poignées. Pis je vous ai sorti des statistiques juste pour vous donner une idée, parce que je me demandais à quel point ça avait été mesuré, ça, dans les dernières années.
La solitude.
La solitude. 23 % des 15-24 ans, OK? Ça, c'est la tranche d'âge où tu es à l'école puis tu côtoies le plus de monde dans ta vie. Là.
Fait que c'est une personne sur quatre.
Une personne sur quatre dit se sentir souvent seule au Québec. C'est des stats d'ici. Là. Les jeunes 18-24 ans demeurent les plus touchés. Ceci dit, cette solitude-là réapparaît dans la cinquantaine. Ça, c'est sans parler des aînés. Là. Je veux dire, on va se le dire, on est au courant à quel point les gens qui sont peut-être un peu plus vieux se retrouvent souvent seuls. 49 % donc une personne sur deux des personnes qui se sentent seules, déclarent une santé mentale faible. On réalise pas quel point le fait d'avoir du monde autour de nous autres, de prendre un verre avec des gens, de socialiser, de jaser, de discuter, ça stimule notre cerveau.
Ben oui.
Puis à quel point ça libère de la sérotonine, des hormones du bonheur, à quel point ça apaise. Fait qu'il y a une anxiété qui se crée chez les gens qui se sentent seuls, ils ont de la misère au niveau mental.
Ben tu sais, nous on est chanceux, puis encore là je dis nous, je vais parler pour moi, tu sais, moi j'habite tout seul, ma famille est loin, des amis j'en ai pas une tonne. Mais ma job, c'est de jaser, puis c'est de venir m'installer avec du monde pour jaser, puis d'avoir des invités, puis de jaser à du monde. Ça me sauve la vie, là.
Ben oui.
Mais, tu sais, dans les dernières années, là, il y a le télétravail qui est arrivé.
Oui, le télétravail qui n'a pas aidé à la solitude, on va se le dire, la pandémie. C'est, on ne veut plus en parler, ce mot-là.
Un amené à l'autre, puis oui, en effet.
Ce mot-là qu'on ne doit plus prononcer, veut pas, ça n'a pas aidé. Juste vous faire des statistiques évolutives. Depuis 1986, je trouvais ça intéressant. Ceux qui voient des amis de temps à autre dans une semaine, c'est passé de 47 % à 18 %
Hey,
méchante drop,
c'est,
là.
Ben, c'est passé d'une personne sur deux à moins d'une personne sur cinq.
Carrément. Et il y a 46 % des Canadiens qui s'inquiètent de ne pas voir assez de proches, contrairement à un 30 % en 92. Fait que ça a vraiment juste baissé dans les dernières années. Je parlais de la pandémie. La solitude a quasiment doublé. C'est passé d'à peu près 22 % à 45 % environ, là, selon les ajustements. Là. Chez les 18-39 ans, 30 % qui disent ressentir de la solitude depuis la pandémie, donc dans les cinq dernières années. Ça s'est accentué aussi. Fait que bref, ça en dit long quand même. Puis ce sont les impacts d'une société dans laquelle on vit qui est de plus en plus individualiste aussi. Mm-hmm. Fait qu'après trois semaines d'harcèlement de la part de Max,
Je te disais, Audrey, viens d'en voir, c'est le fun.
Ah, puis je le filais pas pantoute.
Ben je le voyais.
Puis j'ai fini par rejoindre sur Facebook au départ le groupe Les Amis, pas d'amis. Par curiosité, je voulais juste voir quel genre de publication se faisait, comment ça marchait, quel genre de monde on retrouvait là-dessus aussi, parce que j'avais un jugement justement du type de gens qui pouvaient être sur le groupe.
Je dois admettre que le groupe en tant que tel... C'est pas ce qui me donnerait le plus envie d'aller à un événement de ce groupe-là.
Effectivement.
Mais il faut y goûter pour l'adopter. À l'événement du mercredi. Je vais le dire demain.
En quelques semaines à peine, ce groupe Facebook-là est rendu à 13 000 membres. C'est
13
000. C'est débile, là. Des gens de partout au Québec. Puis là, hier, tant qu'à être sur place puis tant qu'à aller faire l'activité, ben j'ai pris le temps de jaser, un, avec des gens qui étaient là-bas, mais de jaser aussi avec la personne qui l'a créé. C'est l'initiative d'une fille qui s'appelle Amira, une jeune femme dans la vingtaine qui se sentait complètement seule cet été, qui se sentait seulement connectée par les réseaux sociaux, mais complètement déconnectée dans sa réalité. Puis elle m'a expliqué comment fonctionne le groupe.
Dans le fond, c'est un groupe public. Tu écris, tu te présentes, en fait. Tu dis t'es de où, t'as quel âge, homme, femme. Tu peux même mettre des photos de toi. Puis tu dis ce que tu recherches en amitié. Tu dis que, je sais pas, t'as besoin de quelqu'un pour aller faire une activité. Ben, il y a des gens qui vont commenter puis vont pouvoir dire hey, moi, je suis partant. Genre, ça m'intéresse, ton profil m'intéresse. On pourrait aller jaser puis faire une activité ensemble. Fait que c'est ça, c'est vraiment pour développer des connexions puis peut-être éventuellement avoir des nouvelles amitiés.
Puis là, vous faites une activité par semaine où tout le monde est invité.
C'est ça. À tous les mercredis à Québec, j'ai essayé d'instaurer il y a déjà 3 semaines une activité à 18h30 tous les mercredis. Là, on est allé faire du volleyball, on est allé faire de la marche, de la course. Aujourd'hui, justement, on est allé faire du ballon kick. C'était super le fun. Puis à chaque semaine, c'est du nouveau monde qui sont là. C'est super le fun. Puis entre eux aussi, il y a des connexions qui se sont liées. Puis c'est le fun de revoir le monde à chaque semaine. Là, il y en a des anciens qui sont là, puis aussi des nouveaux. C'est vraiment une belle initiative, je pense.
C'est le fun, ça aussi. Là. Puis c'est vrai, hier, il y a des gens qui sont arrivés sur place. Ils avaient amené un ami de plus cette semaine, tu sais. Fait que hier, on a fait la fameuse activité de ballon canadien. Puis honnêtement, je vais te dire comment je l'ai vécu, Max, parce que toi, t'as été là dans les 3 dernières semaines.
Ouais.
Fait que je pense que toi, ton stress, il était passé, tu savais ce que tu t'en allais faire.
Ah, puis tu sais, je connais déjà, ben comme je dis, puis je tiens à être honnête encore une fois, là, parce que j'aurais pas eu les guts de me présenter à un événement de même tout seul. Là, je l'ai fait parce que c'est mes amis qui sont là puis qui m'ont dit viens. Là, fait que j'ai déjà cette base là que je sais va être là aux événements. Mais en effet, même ceux, je suis rendu avec cette sécurité-là que je sais qu'il y en a qui reviennent semaine après semaine, puis c'est cool de voir ce nouveau monde-là.
Mais totalement. Fait qu'hier, la première chose que je t'ai dit quand on est parti de chez vous, c'est « Ah, je suis stressée. » Je le filais pas pantoute. Et puis tu sais, quand t'arrives, là, moi, mon stress, c'était de me dire « Je vais-tu reconnaître les gens qui sont là pour ça? Tu veux pas déranger du monde qui ont comme pas rapport? » Tu sais, tu connais pas les visages, t'as aucune idée de qui va se présenter, de combien de personnes vont être là, des gars, des filles, dans quels âges, t'as aucune idée.
Allez, gars, filles, on y reviendra parce que ça a bien tombé que tu viennes hier.
Pour vrai, j'ai été surprise. Puis des gens super smart, stressés tellement pour rien. Tu sais, on est arrivé puis assez rapidement, le monde, « Hey, salut, c'est quoi ton nom? Tu fais quoi dans la vie? Sais-tu jouer? Non, je sais pas jouer. Regarde, on va rire, ça va être le fun. » On parle de gars, filles. Au début, là, avant que la gang s'agrandisse, là, quand on est arrivé sur place à l'heure, il y avait 5 gars, 6 filles. Fait que j'ai le goût de dire, pour les gens qui se diraient, « Ah, c'est peut-être vraiment féminin, ça, ou vraiment masculin. » Quand je dis que c'est du monde de toutes sortes, puis de tous les âges aussi, là, t'avais des gens dans 20aine, mais dans soirée, à un moment donné, il y a une dame 47 ans qui était là. Il y a une dame, à un moment donné, dans 50aine qui s'est pointée. Du monde, littéralement, de tous les horizons, de tous les milieux aussi. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant.
Puis, tu sais, celle dans 50aine qui est arrivée un peu plus tard dans la soirée, pour te donner une idée, là, c'en est une qui, la semaine passée, était là pour la soirée de volleyball.
Tu sais, c'est
puis
fou,
avec plein de jeunes, puis tout, puis on jase, puis...
C'est pas toujours sportif, les activités, là. Tu sais, hier, on jasait, puis on se disait, crime, les moments où il pleut, mettons, ça pourrait être le fun qu'on aille, genre, à revanche, tu sais, jouer à des jeux de société. Tu sais, on s'est comme mis, après ça, à se donner des idées d'activités entre nous autres.
J'ai failli inviter tout le monde. J'ai un peu invité tout le monde chez nous.
Oui, c'est vrai. Puis tu sais, en dedans de 10 minutes... Tout le monde riait, tout le monde jasait, tout le monde s'encourageait aussi sur le terrain parce qu'on n'est pas des athlètes. On était loin d'être des sportifs, tu sais. Mais c'est pas grave. Le but, c'était juste de s'amuser, d'avoir du fun puis de créer des liens. Puis même pas des liens que tu es obligé de garder. Tu sais, moi, j'ai pas de contact qui m'est resté d'hier. Il y a 2 personnes que j'ai suivies sur les réseaux sociaux parce qu'on a jasé puis on s'est échangé les contacts. À part ça, t'es pas obligé d'entretenir ces liens-là. C'est juste de sur place faire du social.
Ouais.
J'ai parlé avec les gens sur place. J'ai fait un genre de vox pop parce que je voulais pouvoir vous faire entendre le pourquoi les gens avaient décidé d'embarquer dans l'initiative de socialiser davantage. Il y a toutes sortes de raisons, vous allez voir.
Faire plus d'activités avec le monde puis rencontrer de nouveaux mondes.
Pour diversifier mes amitiés, trouver d'autres personnes dans le cercle d'amis parce qu'en étant adulte, c'est plus difficile de se faire des amis de notre âge ou peu importe. Là.
Pour faire de nouvelles rencontres, chaque nouvelle rencontre t'amène toujours quelque chose, t'amène de l'expérience, te fait grandir, t'amène de la maturité. Donc, pour vraiment vivre la vie, pas juste avec un cercle d'amis, mais avec plein de cercles d'amis, ça vaut la peine.
Beaucoup de monde sont tombés dans le télétravail. C'est merveilleux parce que ça donne une très, très bonne conciliation. Sauf que le côté négatif, ben, c'est qu'un petit peu moins social. Fait que justement, des groupes comme ça vient aider à pallier à ce petit besoin-là qu'on peut avoir.
En fait, j'ai vu passer sur Facebook, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Là, je voyais que du monde proposait des activités, autant pour bouger que juste parler, faire des jeux de société. Puis j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Fait que ça permet de rencontrer d'autres personnes puis se faire de nouveaux amis.
Essentiellement, me faire des contacts. Je suis pas de la région de Québec, je viens de Rimouski. Donc, ça fait moins de 2 ans que je suis ici. Donc, même si je connaissais des gens, il reste que passer la trentaine, des fois, c'est pas toujours évident de trouver des gens qui sont disponibles pour faire des activités aussi régulièrement que quand on était, mettons, début vingtaine pendant les études, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, je me suis dit, bon, ben, écoute, c'est une belle initiative. Il y a l'air d'avoir plein de beau monde là-dedans. Fait que pourquoi pas?
Tu sais, il y a beaucoup de choses là-dedans. Là. Au final, il suffit d'avoir déménagé pour avoir besoin de se refaire un cercle quand tu l'as pu. Suffit de venir d'ailleurs. Il y avait des gens qui venaient, qui étaient immigrants, tu sais, puis qui ont besoin juste de créer des liens. J'en ai vu beaucoup sur le groupe Facebook aussi ce matin, tu sais. Il y en avait un, entre autres, à Sherbrooke, 26 ans, je viens d'arriver, j'apprends le français, j'ai besoin de le pratiquer, puis on peut-tu aller prendre un café, on peut-tu jouer à quelque chose, faire quelque chose? Le télétravail, vous l'avez entendu, ça revient. Puis j'ai beaucoup entendu le passé 30 ans, c'est difficile. Mais
c'est
à l'inverse...
Vrai que c'est... Ouais.
Ben oui, c'est tough, je peux t'en parler, là. Puis à l'inverse...
Je peux pas m'en parler, t'as pas 30 ans.
Je m'enligne drôlement vers là. Mais à l'inverse, ce que j'ai remarqué, que j'ai trouvé triste, beaucoup de jeunes, 20, 21, 22, 19, qui sont dans le moment aussi où ils devraient faire des connexions au day-to-day avec l'école, mais qu'ils le font pas. Est-ce que c'est parce qu'ils sont trop connectés, ces écrans et ces réseaux sociaux? Je ne sais pas, je ne ferai pas le débat de ça ce matin.
Mais même là, on parlait de télétravail, là, je me souviens pas c'est dans quel média exactement que ce matin il y avait un papier sur les cours en ligne. Puis que tu te rends compte que c'est dans le Journal de Québec. Plus de cours à distance à l'Université Laval, des étudiants forcés de suivre plus de la moitié de leurs cours en ligne.
Et t'imagines-tu?
Fait qu'il y a ça aussi, là. Tu sais, au cégep, t'sais, dans un programme spécialisé comme nous, on a fait en art et technologie des médias à Jonquière, c'est naturel, tu te fais des amis, tu es en présence. Mais une fois que tes cours sont en ligne pour plus de la moitié, ben, tu rencontres nécessairement la moitié moins de monde,
puis là,
tu fais la moitié moins d'amis.
Ben tu sors pas de chez vous.
Fait que ça doit pas aider non plus.
Télétravail, Mylène qui nous dit, je dirais même qu'on peut ne pas s'en rendre compte. Comme vous le dites, le télétravail a créé beaucoup de solitude. J'étais la première à dire que ça avait pas d'impact, mais je vois vraiment une différence sur ma santé mentale depuis que je suis revenue au bureau en hybride. Ça fait un gros changement. Il y en a un autre, j'ai 37 ans. En vieillissant, j'ai fait le ménage de mes relations parce que j'avais beaucoup d'amitiés toxiques. J'ai beaucoup de difficultés à me faire de nouveaux amis. Pourtant, je m'expose, j'essaie de faire des activités. Ça a même été mon défi pour le nouvel an 2024 de me faire des nouveaux amis, mais c'est pas si facile que ça. Il y en a énormément qui sortent les textos, arrête pas d'entrer.
Quelqu'un parle d'un horaire atypique qui aide pas, puis c'est vrai, tu sais... Moi, ce que j'aime de ce groupe-là, c'est que l'activité commence à 18h30. Je peux me coucher à une heure qui est raisonnable. Mais tu sais, quelqu'un justement qui travaille de soir, ou qui travaille de nuit, puis qui dort le jour, ou qui fait fin de semaine. Puis tu sais, il y a un texto qui est rentré tantôt, je le retrouve plus exactement, mais quelqu'un qui disait « Hey, va-tu avoir des activités de ce groupe-là la fin de semaine, mettons, parce que moi, je peux pas les mercredis soir.
Ouais. »
Fait que, tu sais, c'est vrai que les horaires atypiques... On n'y pense pas, mais...
Ben, en même temps, t'sais, pour répondre à cette question-là, pour les gens que ça peut intéresser, t'sais, le mercredi soir, il y a toujours une activité dans la semaine. Ceci dit, la majorité des gens qui font des publications sur le groupe créent eux-mêmes aussi d'autres activités. Là. T'sais, dans le sens que les gens sont indépendants. Là. C'est pas...
Puis autant, là, il rendait tellement de publications que je sais pas... pas à quel point ça fonctionne ou s'il y en a trop et que c'est rendu que tu t'y perds, mais au début, là, quand... Parce que le groupe, c'est vraiment weird ce qui s'est passé. Il est comme passé de 3-4 000 personnes à 12-13 000, mais en comme 2-3 jours. Tu sais, dans la première semaine et demie, ça avait stoppé à 3-4 000. Puis là, c'était juste le fun de suivre comme quelqu'un que là, tu voyais. OK, comme. Puis là, tu voyais passer la publication. Là, hey, on s'est vu, on est devenus amis. Puis voir des petites gangs un peu partout au Québec qui se rejoignaient. Puis là, ça a comme tellement explosé que, oublie ça, il y a énormément de publications. Mais je me souvenais pas pantoute, je m'en allais avec ça.
Ben, le point est juste de... Non, mais le point est de dire que est-ce que parce que ça publie beaucoup, ça fonctionne autant? Je pense que ça dépend carrément des gens qui sont dans le groupe. Ça dépend de nous, tu sais.
Puis il y a des sous-groupes qui se sont créés aussi. Genre, les amis, pas d'amis. Je nomme une ville, Saint-Jérôme.
Oui.
Ou parce que, tu sais, là, veux pas, c'est un groupe, j'ai dit, c'est partout au Québec. Puis les gens qui l'ont créé sont des gens de Québec. Fait qu'on fait les activités à Québec.
Tu sais, ce qui est le fun aussi, c'est que hier, mettons, en fin de soirée, là, les gens parlaient de faire des événements pour le monde tout seul à Noël, au jour de l'an. Tu sais, je trouve ça tellement hot.
Mon idée, ça.
Il y a une conscience sociale qui se crée. Puis encore une fois, je sais que ça a l'air weird, là. J'imagine du monde dans le char en ce moment se dire, voyons, j'ai pas touché par ça, là. J'ai mon monde, j'ai ma vie, la vie va tellement vite, j'ai de la misère à voir ma famille, j'ai de la misère à voir les amis que j'ai déjà. Hey, même place que vous autres. Puis hier, quand je suis partie de cette activité-là, je me suis dit, mon Dieu, au final, mon mercredi soir, j'ai été 2 heures à rire, à jaser avec plein de monde de toutes sortes d'horizons, à bouger. Je veux dire, j'ai couru, j'ai eu du fun, je suis partie légère de là, puis ça veut pas dire que je vois moins mon monde ou que j'ai moins d'intérêt à voir, mais juste de diversifier les conversations. Tu sais, hier, il y avait un historien, il y avait des gens qui travaillaient à Radio-Canada, qui étaient caméramans, il y avait une fille à travailler aussi dans une pension pour chiens, une fille qui travaillait en CPE, un gars en informatique, tu sais... Mais du pour... monde qui t'ouvre juste à avoir d'autres conversations que ton propre petit silo.
Mais sais-tu quoi? Si on va ailleurs, puis là-dedans, j'ai l'impression que, tu sais, parce qu'il y a bien des auditeurs en ce moment qui doivent pas se reconnaître puis qui ont hâte qu'on change de sujet puis que ça intéresse pas. Moi, c'est une de mes affaires préférées de ce groupe-là puis de ces rassemblements-là, c'est que... Tu sais, mon chum Gab, là, qui est avec Amira, qui ont créé ce groupe-là, on se voyait pas une fois, on prenait pas ce temps-là de se voir une fois par semaine.
Mais non.
Et qui, toi, dans la vie, tu prends le temps, que dans tes chums, dans tes meilleurs chums, puis là, je parle aux auditeurs, et qui tu prends le temps de dire, hey, on va se voir au moins une fois par... Tu le fais même pas une fois par mois. Combien, pense en ce moment dans ta tête, là, hey, ce chum-là, c'est vrai, je l'aime bien, fait longtemps, je l'ai pas vu. Pis moi, ce que j'adore de ce groupe-là, c'est que là, à cette heure, à tous les mercredis, en plus d'avoir l'opportunité de me faire des nouveaux amis si ça clique, ben je sais que je vais voir des chums.
Oui, t'amènes ton monde.
Fait que quelqu'un qui se reconnaît pas dans le groupe, là, ça peut être une belle remise en question aussi de dire, hey, je pourrais-tu, moi, avec mes chums, partir cette petite tradition-là de on va se voir, au pire, pas tous les mercredis.
Ça t'impose un break. Moi, c'est vraiment, vraiment ça. Ça t'impose, c'est vraiment juste, ça met. C'est un check au calendrier. Tu sais, quand tu te remets en forme, là, il y a du monde qui te dit, ben oui, mais mets-la à ton horaire, comme si c'était un rendez-vous pour aller t'entraîner. Ben, de faire du social, tu peux le mettre à ton horaire aussi si tu te sens seul. Des fois, tu sais pas par où commencer. Puis moi, c'est ce que je trouve hot. J'en boucle des cafés, puis des déjeuners, puis des dîners avec mon monde. Mais c'est toujours dans un horaire un peu... là, juste d'y aller pour le fun, puis sans limite. Puis tu sais, il y a un texto qui vient d'entrer que je tiens à lire. Audrey Max, la plupart des publications d'amis, pas d'amis, là, il y en a qui sont dirigés. Tu sais, une fille qui va chercher des femmes pour aller marcher, pour aller... Il dit, moi, je suis un homme de 37 ans qui travaille sur semaine de 6h à 13h le soir. C'est pas motivant, je sais pas par où commencer. Bien, de te pointer dans les activités, c'est déjà un bon départ, parce que le monde là-bas sont 50-50. Il y a bien du monde hier qui ont même pas fait de publication dans le groupe, qui ont juste décidé de se pointer.
Qui ont même pas dit qu'ils allaient venir. Tu sais, Amira, elle essaie toujours un peu de gager en disant hey, like ce commentaire-là si tu viens, nanana. Puis hier, on est arrivé là, on s'est dit hey, on va être 5. Il y a personne qui a répondu, qui venait. Puis
on s'est ramassé une vingtaine au final.
Exact.
Des gens qui sont partis dans la soirée, d'autres qui se sont ajoutés. Fait que bref, tu sais, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais tout ça pour dire que j'étais la première à me trouver une nounoune un peu d'avoir été réfractaire, parce qu'au final, ça me faisait penser à quand tu t'en vas en voyage puis que tu rencontres des gens par hasard. Tu sais, dans ce temps-là, on dirait que on réfléchit pas, on est content de se faire des contacts. Là, ça marche, mais ça marcherait pas dans notre propre ville. Tu sais, pourquoi pas? C'est un peu ça. Tu sais, puis la nouvelle génération est une génération qui s'isole beaucoup puis qui veut reconnecter. Je trouve ça hot. Même si, tu sais, ironiquement, ça se fait par les réseaux sociaux à la base, mais les gens ont envie de se rencontrer. Puis je lis beaucoup de vos textos de qui sont en trentaine, en quarantaine, qu'ils vivent ça. Des parents, mettons, qui ont des jeunes enfants puis qui prennent pas le temps d'aller respirer, d'aller prendre une bière. Essayez donc.
Francis qui texte, j'ai manqué un bout. C'est quoi le groupe Facebook pour se faire des amis? Y a-t-il un équivalent du côté de Lévis? C'est les amis, pas d'amis. Puis bon, comme je mentionnais, les activités se font à Québec, s'organisent à Québec pour l'instant, mais tu sais, c'est les activités que nous, on organise. Puis je dis nous, je suis pas impliqué là-dedans, là, que mes amis organisent. Ça, c'est à Québec. Mais tu peux faire un pause, Francis, puis demander s'il y en a que ça le tente de participer à Lévis. Même affaire pour le texto qui demande, peux-tu avoir un sous-groupe de filles qui jouent à Magic the Gathering? Ben encore là, fais un pause dans le groupe, tu peux même le laisser anonyme au pire, puis tu te contacteras toi-même les gens qui commentent, mais hey, tu peux faire un pause. Là.
Un matin, il y avait une fille qui disait « Hey, y a-tu des fans de moto? » Elle a cherché du monde pour aller rider. Quand on vous dit que ça tire dans tous les sens, fait que non, j'ai trouvé que c'était une belle découverte, puis pour briser la solitude, une belle solution aussi. Tu sais, Je vous le rappelle, là, dans les statistiques que je vous nommais tantôt, 49 % des gens qui se sentent seuls et qui disent que ça a un impact sur leur santé mentale. Hey, on est maître de ça. Là. Sortez de chez vous, il y en a des opportunités. Il y a les Bancs Bleus de Québec si vous êtes trop gênés pour vous afficher sur les réseaux sociaux, mais il y a des initiatives comme celle-là qui se retrouvent aussi sur les plateformes, l'Instagram, les Facebook de ce monde, les amis, pas d'amis. Fait que ça a vraiment été ma découverte hier, puis je te la dois, Max, pour vrai. Puis sais-tu quoi? Je pense que je vais y retourner mercredi prochain.
Yes, ben je risque d'être là aussi.
Ben regarde, on va assurément s'y retrouver là. Puis si vous avez le goût de participer, ben joignez-vous à nous autres. Vraiment, ça a terminé autour d'une crème molle hier, puis c'était trippant.
Ouais, le milkshake. As-tu déjà vu quelqu'un boire un milkshake aussi vite que j'ai bu mon milkshake?
Non, t'avais besoin d'hydratation.
Ouais,
c'est ce que j'ai compris.
J'avais pas amené de gourdeau. J'avais. Demain, 11h dans l'open mic, qui on jase?
Hey, oui, je voulais prendre le temps de le dire parce que vous êtes plusieurs à nous l'avoir demandé. Mademoiselle V revient. Elle était collaboratrice toutes les semaines dans l'open mic quand je le faisais avec Yann Marceau. Puis elle reste dans les grands rendez-vous boulevard. Donc les vendredis, là, une semaine sur deux ici et là, quand on a des sujets à vous présenter, on va pouvoir y jaser. Puis demain, le sujet est assez spécial. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette tendance-là qui se crée au Canada. C'est d'une tristesse quand tu y penses. Les logements sont tellement chers qu'il y a des gens qui commencent à proposer de la sexualité contre un habitat, carrément. Fait qu'on va parler de ça. On va décortiquer aussi les prix aujourd'hui. Qu'est-ce qui vaut quoi comme acte sexuel? Parce que, bon, là, c'est un peu niaiseux, dit de même, mais ton loyer à 900$ versus celui à 2000$, j'imagine que c'est pas la même paye. Hein? Fait que il y a tout ça. Est-ce que c'est vraiment une majorité de gens? Parce que moi, j'en connais pas, là. Fait qu'on va décortiquer ce phénomène-là avec elle. Évidemment, vous avez des questions. Mais c'est le 88-971-1021, tout simplement. Puis ce qu'on vient de jaser pour le monde qui vient de se joindre puis qui savent pas trop de quoi on parle, là, la solitude et les amis, pas d'amis sur Facebook, ben ça va se retrouver sur le blvd.fm.
Merci beaucoup, Audrey Pinchot. Pascal CV s'en vient dans les prochaines minutes pour sa chronique du jour. En attendant, prendre le temps de vous confirmer que la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ministre de la CAQ, bien évidemment, au provincial, a confirmé dans les dernières minutes qu'elle quittait ses fonctions, oui, de ministre des Affaires municipales, aussi de ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, évidemment, et également, puis c'est là que c'est très intéressant, de député de Chicoutimi. Ce que ça veut dire, si le départ est effectif là, ben c'est que François Legault a 6 mois pour déclencher une élection partielle. Et quand tu vas sur le site Québec 125 qui analyse les sondages, les probabilités, tout ça, le Parti québécois a 99 % de chances d'aller chercher le comté de Chicoutimi dans les prochains mois, une fois que la partielle sera déclenchée. Fait que le Parti québécois qui va vraisemblablement continuer sur sa lancée et aller chercher un autre député à l'Assemblée nationale via une élection partielle avant les élections provinciales de 2026. Il est 11h34 dans le Point de Max. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 88-971-1021, même numéro s'il y a des réactions sur quoi que ce soit. Et on revient dans quelques minutes. Merci d'être là.
Le Point de Max.
Ce samedi 6... 11h40 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. La conversation qu'on vient d'avoir avec Audrey Pinchot va se retrouver sur la page blvd.fm, en fait, le site web de Boulevard, l'application mobile aussi de Boulevard 102.1, peut-être le YouTube éventuellement si on trouve que c'est assez du bon contenu. Même chose pour ce qui est de ma conversation avec André Bernier, président, je l'ai appelé tout le long de l'entrevue, directeur de l'Association québécoise du personnel de direction d'école, mais c'est un lapsus, c'est pas le directeur, c'est le président des directeurs, genre, de là le lapsus. Bref, ça aussi, ça va se retrouver sur le blvd.fm. Fait que dans les dernières minutes, dans l'open mic avec Audrey Pinchot, on parlait de l'utilisation de réseaux sociaux pour se faire des amis dans la vraie vie. L'utilisation de réseaux sociaux se fait aussi, Pascal CV, pour régler des crimes.
Ouais, ben on n'a pas le choix. Voulez-vous 500 $ hein? Si je vous propose 500 $ plusieurs vont tendre l'oreille, je pense.
Ben, vite de même, oui.
Hein? En 2025, c'est pas des pinottes pour n'importe qui. Mais c'est ce qui se passe. Il y a déjà un courant sur les Spotted ces temps-ci pour résoudre des affaires criminelles à coup de récompense. Genre, je recherche ceci, je recherche cet individu, voici le présumé bandit. Avez-vous des informations? Mais en arrière de ça, se cachent des histoires quand même humaines importantes, puis des désagréments un peu tannants aussi. Quand il faut que tu sortes de l'argent de ta propre poche pour essayer de stimuler de l'information, essayer de résoudre un crime qui auparavant c'était juste de contacter 911, ça fait un peu la différence, là.
Mais là, c'est-tu un genre de mettons qu'on l'amène à la vraie vie, si tu genre je prends un papier puis là dessus je mets la photo de mon voleur de cabanon puis là j'écris récompense 500$ si tu me trouves mon voleur de cabanon, mais là tu mets ça sur les réseaux sociaux.
C'est ce qui se passe sur les réseaux sociaux, puis j'attire beaucoup l'attention sur le fait que les policiers semblent débordés. Donc des histoires de vol, des histoires de petits crimes, c'est pas nécessairement dans leur priorité, mais pour des gens, c'est une priorité quotidienne.
Ah ben
c'est
check. Le cas de... j'ai un bon exemple pour ça, les vols de vélo. Moi, là, quand j'ai appelé parce que je me suis fait voler mon vélo chez nous, couper le cadenas, partir avec mon vélo, j'ai vite compris que niveau de priorité des policiers, là...
Maxime Larouche était pas là.
Avec son petit vol de vélo à 300-400$, puis c'est beaucoup ce qui revient justement sur les groupes Facebook, parce qu'il est rendu avec des groupes Facebook de vol de vélo, où le monde met leur vélo en disant « Hey, j'ai contacté les autorités. » Et ils m'ont comme dit qu'ils l'avaient pris en note, mais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire puis qu'il n'y avait pas le temps de faire ça nécessairement. Fait que si vous le voyez, contactez-moi. C'est un peu là qu'on est.
C'est le cas d'Éric Dion, qui est propriétaire de Turbo Kids. Ça, c'est au 635 sur Pierre-Bertrand, ici à Québec. Dans les dernières heures, il a mis le vol qui s'est passé à sa shop dans les groupes Spotted. Donc, tu peux voir ça un peu partout sur les réseaux sociaux. Il explique la situation.
Dans la nuit de hier, qui était de mardi à mercredi, vers 3h15 du matin, il y a trois voleurs qui sont passés derrière la bâtisse, qui sont venus vers l'avant, vers le côté, puis vers l'avant. Puis il y avait une genre de pick-up ram qui était devant la façade, ils se sont cachés un petit peu en arrière, en train d'évaluer ce qu'il y avait à faire. Puis finalement, ils ont défoncé une vitrine à l'avant. Et puis ils nous sont partis avec trois trottinettes.
Un bon vieux vol de nuit avec la vanne pis tout.
Là, tu parles de trois trottinettes, tu dis, ouais, OK, il y en avait combien dans son... Tu sais, on essaie tout le temps de diminuer un peu ce qui se passe pour faire comme, c'est pas si pire, on va réussir. Mais c'est des frasques à son bâtiment, c'est le fait qu'il y a des individus qui connaissent un peu les lieux maintenant, c'est le fait d'être, d'être maintenant saccagé, hein? Ça a des coûts, ça a des frais pour les assurances. Heureusement, les voleurs ont été un peu négligents.
Les voleurs ont été, on va dire, un peu négligents. Qui est à notre avantage. Ils ont laissé une casquette, un casque de moto, un sac, une paire de pinces, un cutter, une paire de bâtons de métal pour défoncer la fenêtre, je présume. Puis même un petit peu d'ADN que les policiers ont pu se relever. Ils nous ont dit qu'avec la qualité des photos, ben, peut-être qu'il était là en territoire de connaissance, qu'il y a des enquêteurs ou bref, qu'ils les reconnaîtraient de par leur passif, là.
Donc, les caméras aident beaucoup. On a des images qui sont assez claires. On les a mis sur les réseaux sociaux. Plus je parlais avec M. Dion, plus je comprenais qu'au contraire de ce qu'on entend du genre « Hey, passez pas par les réseaux sociaux » ou autre, on a un peu orienté le propriétaire à utiliser réseaux sociaux pour que ça aille plus vite, sans que je puisse dire que c'est ce qui a été recommandé. C'est la prétention de croire que j'ai eue en parlant à M. Dion. On l'écoute.
Ce qui sous-entend, c'est que on peut donner une indication, c'est que je risque d'être mieux servi en passant par Internet, Facebook, puis en faisant des dénonciations pour avoir des informations qui allaient être plus rapides. Dire qu'ils me prêtent comme un numéro, j'ai l'impression qu'ils ont juste, je pense, une question de volume puis de ressources. Je pense pas que c'est une mauvaise foi, mais je pense qu'il y a tellement d'affaires qui font croche puis de monde qui font des affaires que je présume que c'est une question dans les priorités puis il faudrait qu'il y ait plus de ressources.
Puis en parlant avec lui, je me rends compte que finalement, il y a des entrepreneurs de la région qui commencent à jaser. Ça semble être un retour à ce qu'on voyait dans le petit fait d'hiver, là, il y a quelques années. Les genres de vols qui sont récurrents, vols en entreprise. Ça avait slacké, on en parlait un petit peu moins parce que, bon, caméra maintenant, système d'alarme, tout ça était assez bon et assez moderne pour permettre de mettre rapidement le grappin sur ces individus-là. Mais est-ce que ça, c'est dû à une augmentation de troubles de comportement par la consommation, par l'itinérance? Là, il reste un grand vide de questions.
Mais ça me surprend pas parce que combien de fois dans les derniers mois on a vu des ce genre de trucs-là, ces réseaux sociaux, avec des vipères de restaurants. Tu sais, du monde qui quitte les restaurants ou les bars sans payer. Puis juste, ou des fois, c'est des dépanneurs ou avec la photo en disant « Hey, si vous le connaissez, juste dire de nous contacter, tu sais, puis on va enlever la photo après. »
Là oui, il y a un bar de Saint-Joseph qui dernièrement a eu un client en plein jour. Il est arrivé, il est filmé, là, ça a été mis sur les réseaux sociaux aussi. Le gars super à l'aise, met à parler avec la serveuse, prend son drink, prend un double, le termine. Il fait juste littéralement lui dire « Hey, merci beaucoup, bonne journée. » Il lui tend la façon de payer. Il dit « Non, non, bonne journée, quitte le restaurant. »
Mais dans tes extrêmes, mon préféré, c'est lui.
Les voleurs ont été, on va dire, un peu négligents, ce qui est à notre avantage. Ils ont laissé une casquette, un casque de moto, un sac, une paire de pinces, un cutter.
Ils ont donc bien laissé des
affaires.
Une
souris verte. Rendu là, les cartes d'identité étaient peut-être sur la table.
Ben, pour vrai.
Mais ils ont trouvé de l'ADN et tout ça. On s'entend que c'est pas les plus brillants. Ça, c'est peut-être les casseurs flotteurs là, qui sont allés du côté de Turbo Kit.
Oui, rendu là, laisse ta carte d'assurance maladie sur la table avec ta carte d'assurance sociale.
Dis beau bonjour à la caméra et ensuite fly sur ta trottinette.
Ben on espère que ça va donner quelque chose.
Mais c'est surtout le fait que les réseaux sociaux sont rendus plus forts que la police dans ce genre de crime-là, selon les entrepreneurs.
Parce qu'ils n'ont pas le temps, les autorités.
Ils n'ont pas le temps. Puis, tu sais, faut-tu mettre 500 $ à titre de récompense pour essayer de faire en sorte que les gens aussi se sentent concernés? Des fois, tu vas avoir du bouche à oreille, des gens qui vont juste vouloir aider, qui vont avoir vécu cette situation-là. Mais pour d'autres, c'est comme, hey, nous, ça vaut même la peine d'offrir de l'argent pour résoudre ce qui s'est passé dans nos commerces, même si au prorata, ça peut venir plus cher.
Sur le Twitch, on nous dit, pour éviter les vols de vélo, au moins un cadenas plus alarme si le vélo bouge, enregistrer le vélo sur Garage 529, prendre des photos du vélo, un AirTag, c'est une bonne idée aussi. C'est tout ça pour protéger ton vélo. Normalement, moi, dans ma tête, tu mets un cadenas, là, t'es chez vous, c'était dans ma cour arrière là, de condo, là. Puis Colin, je me réveille le matin, je m'en vais pour prendre mon vélo pour venir à la job. Tout ce que je vois sur le rack, c'est mon cadenas coupé qu'ils ont laissé à terre.
T'as
encore
rien entendu,
encore
t'as
plus insulté. Ben non, rien pantoute. Puis là, après ça, c'est ça. Je check les démarches un peu. On nous parle sur le Twitch, je l'ai nommé, le Garage 529. C'est une plateforme qui a été mise en ligne par, je crois, le SPVQ, où justement, tu vas enregistrer ton vélo avant qu'il disparaisse, parce que là, il faut vraiment que tu donnes toutes les informations. Je pense qu'il faut que tu mettes des photos. Puis avec ça, ben, si les autorités retrouvent par hasard ton vélo, parce que des fois, là, ils tombent là-dessus, puis c'est des saisies, puis ils tombent sur une chaîne, là. Où il y a
des conteneurs,
des vélos volés.
Mais il y avait un réseau, puis il y avait eu des enquêtes. Je pense que c'était Radio-Canada qui avait fait cette enquête-là il y a quelques années, comme quoi c'est envoyé aussi beaucoup à l'international. C'est des vols de vélos par masse. Fous ça dans un conteneur, envoie ça à l'aube où on ne sait pas, là, et ça arrive en cargaison. Il y en a beaucoup qui sont repeinturés aussi. Fait que si ton vélo, il est orange flash, tu te dis, je vais pouvoir le retrouver rapidement. Non, c'est rapidement refait.
Tu sais, c'était un bon cadenas que j'avais, là. Puis, il était à terre, bien coupé. Ça doit avoir pris 5 minutes. Puis, après ça, comme je dis, j'ai rejoint des groupes Facebook de vol de vélo, tout ça, dans mon quartier très rapproché, là. Beaucoup dans la même semaine, c'est pas dans la même nuit. Là. Fait que, tu sais, c'est au point où je me demande justement si c'est même pas un camion cube qui passe dans la rue.
Qui ramasse tout ce qu'il trouve.
Puis là, il y a c'est une gang, puis qui va, OK, on va là, on ramasse eux autres. C'est fascinant. Fait que faites attention à vos vélos, puis les entreprises, ça a l'air qu'à cette heure, la police, tant mieux quand c'est pratique, là. Puis on vous invite toujours, évidemment, à passer par les autorités en premier.
L'enregistrer, parce que, vois-tu, dans leur cartable de suspect, il risque d'avoir un des gars qui a laissé maison complète dans le commerce en faisant le vol, puis aussi les photos qui vont être prises puis vont être amenées aux enquêteurs en disant « Reconnaissez-vous des gens là-dedans? » Quelqu'un qui disait qu'un des suspects pris par caméra avait une fiche complète puis était client du SPVQ. Il y en a qui reconnaissaient des gens un petit peu plus souvent du côté de la police que nous là, au quotidien. Puis aussi sur Marketplace, tellement d'objets volés qui sont vendus, ça peut paraître tannant. Si tu te fais voler ton vélo, tu le vois là, tu arrives chez la personne qui le vend, puis officiellement l'a acheté il y a 2 mois quelqu'un d'autre, puis ça faisait pas son affaire. Puis, tu sais, tout le monde est en train de s'accuser d'être voleur.
Ben, moi, Manet, je me suis fait voler ma blonde, je l'ai jamais retrouvée sur Marketplace.
Le méritais-tu?
De me faire voler ma blonde?
Puis de jamais la retrouver
sur
Marketplace.
Je ne mériterais pas de telles choses. Toi, t'es pas là demain?
Non, congé.
Bon, ben profite-en. Merci beaucoup, Pascal. Salut. À lundi. Dans l'actualité, ça a bougé beaucoup dans les dernières heures. D'abord, on a eu la confirmation que le remaniement ministériel de François Legault, c'est la semaine prochaine que ça allait se faire. Le caucus de la CAQ a été repoussé de quelques jours également. Et la rentrée parlementaire, ça se fera pas le 16 septembre. On repousse ça à 2 semaines plus tard, le 30 septembre. On surveillait également la ministre des Affaires municipales, André Laforêt, ministre caquiste. On avait les infos depuis quelques heures à l'effet qu'elle s'enlignait probablement pour annoncer qu'elle allait être candidate à la mairie de Saguenay. Ce qu'on ne savait pas, c'est est-ce qu'elle va tout laisser derrière par rapport au provincial. Fait que oui, son poste de ministre, mais aussi son poste de député. Fait que à 11h, il y avait conférence de presse de Mme Laforêt qui, en effet, a confirmé qu'elle allait se présenter dans la course à la mairie de Saguenay. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a également confirmé qu'elle allait tout quitter au provincial incluant son poste de député de Chicoutimi. Ce que ça veut dire, si sa démission est immédiate, là, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, on a 6 mois du côté du gouvernement de François Legault pour déclencher une nouvelle élection partielle. Un autre message qui vraisemblablement sera envoyé à la CAQ et à qui ça risque de profiter, encore une fois, pour une quoi? 4e élection partielle de suite. Ben, selon Québec 125 et ses probabilités, ses chiffres avec les sondages et tout ça, ben, le Parti québécois a à peu près 100% de chance d'aller chercher ce siège-là. On aurait alors un 7e député à l'Assemblée nationale après la partielle. C'est pas joué encore, là. On est dans un sondage, puis on sait pas qui va se présenter. On n'a rien de tout ça. Par contre, c'est sûr qu'on voit mal qui d'autre pourrait prendre la place d'un péquiste au Saguenay, un coin qui est souverainiste. Bon, il y avait eu la vague de la CAQ, là. André Laforêt avait réussi à être élu à ce moment-là, mais je pense que ça va revenir au Parti québécois assez rapidement. Maintenant, est-ce que François Legault va faire traîner ça puis attendre le plus longtemps possible avant de déclencher la partielle, un peu comme il l'avait fait dans Arthabaska? Ce sera à suivre. Aussi, dans l'actualité, on va bien sûr suivre de près ce qui se passe avec les employés d'entretien du RTC. Grève qui va commencer demain, qui doit s'étirer jusqu'à lundi. Par contre, petite lueur d'espoir, le conseil d'administration du RTC qui doit se prononcer aujourd'hui sur l'hypothèse de règlement du médiateur conciliateur qui a été déposé hier, le syndicat va le faire demain. Si les membres du syndicat votent en faveur, ben la grève pourrait durer juste demain. Puis après ça, ben on aurait des services du RTC qui reprendraient au courant de la fin de semaine. Déjà la fin du Point de Max pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Jeff s'en vient avec Pascal et Anthony à Carini pour le show du midi. Et après ça, c'est Gravel dans le retour de 14 à 18 heures. Marceau le soir après ça. Puis nous autres, on se retrouve demain 6 heures pour Marceau le matin avec Marceau puis Jeff. Puis on revient dans le Point de Max aussi dès 10 heures. Salut, ciao, bye! Le Point de Max.